BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, de votre argent, du capital que vous avez déjà ou de celui que vous essayez de constituer pour devenir investisseur. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors du direct de 10h à midi à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes déjà en juillet, lundi 1er juillet, c'est aujourd'hui. Au programme de l'émission, on va discuter du premier tour des élections. Quel est l'impact potentiel pour votre épargne? On va évidemment faire le point sur les différentes incidences pour le patrimoine des Français en fonction des scénarios et des mesures fiscales envisagées. On sera avec Mathias Bacino de Trade Republic pour faire cela, Gustave Sonden de Colbert et Julie Cohen de BFM Bourse. Côté éco, Nicolas Dose sera avec nous. Guillaume Attal a annoncé hier soir la suspension de la réforme de l'assurance chômage dont le décret devait paraître aujourd'hui, et vous vous en doutez, ça ne plaît pas beaucoup à Nicolas. Décryptage d'ici une petite demi-heure. Côté bourse, Antoine Larigauderie est déjà connecté depuis Euronext. Et nos deux traders poursuivent la séance du jour, séance le jour d'après, avec nos deux experts. Le regard du sage Julien Nebenzahl et puis le coaching suisse de Thomas Veillé, c'est à suivre dans la première partie de l'émission. À 11h15, comme tous les jours, l'immobilier. La question de la rénovation énergétique semble être un des points de blocage pour le marché, en particulier pour les propriétaires bailleurs, peut-être vous qui nous écoutez. Comment réagissent les professionnels aux différentes propositions et notamment à celle du RN? Arnaud Accard, le président d'ImmoDirect, sera avec nous. Et puis on investira dans les petites et moyennes valeurs aujourd'hui. 30 minutes pour faire le point sur la cote, les up, les down. Que faire sur les small cap au deuxième semestre? Le regard de la gérante Julia Bridger de Roland Corporate et d'Eric Lewin des publications Agora. Et puis vous, chers auditeurs, auditrices, vous participez à notre antenne, vous réagissez, vous commentez. Les deux moyens, c'est très simple, c'est LinkedIn en message privé, Lorraine Goumeau, ou bien par email. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Il est temps d'aller voir ce que fait notre CAC 40 ce matin, au lendemain du premier tour des élections législatives. Et c'est un rebond du côté de notre CAC 40. Pouvons-nous parler, Antoine, d'une forme de soulagement? Et si oui, expliquez-nous.
Non, soulagement, ce serait aller bien vite en besogne. Il est clair que... D'ailleurs, regardez, on était en hausse de quasiment 3% à l'ouverture. Et là, on réduit largement la cadence, plus 1,9%. 7623 points. Alors, quand même, une surperformance large par rapport aux autres indices européens. Plus 0,49% pour le DAX à Francfort et plus 1,16% pour l'Eurostoxx 50. Non, ce n'est pas un vrai soulagement. Honnêtement, ce qui est en train de se passer, déjà, il faut voir les aspects techniques de la chose. On est au premier jour du mois. Donc ça, techniquement, ça a toujours son importance du côté des flux financiers. On sort quand même d'une semaine où le CAC 40 aura perdu pas loin de 3% et où on s'approchait à quelques centaines de points de nos plus bas annuels. Une semaine à laquelle on a joué vraiment au scénario du pire, du pire, du pire, du pire, avec deux options extrêmes qui sont, pour le moment, en partie évacuée de la prime de risque des marchés. Donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est un rattrapage avec un CAC 40 qui reprend de la hauteur avec, et on va le voir dans le détail, tous les secteurs qui ont été le plus attaqués ces dernières semaines depuis l'annonce de la dissolution. Mais voilà, les marchés n'ont pas voté pour un programme. Ce serait idiot de dire ça. On a véritablement un CAC 40 qui se rattrape après avoir évalué les scénarios du pire. Donc plus 2%. On est à 7629 points. Indicateur technique intéressant, il n'y a aucune valeur en baisse sur le CAC 40, tout est en hausse, mais les secteurs qui réagissent le plus et le mieux, ce sont les valeurs bancaires qui ont été largement attaquées justement ces dernières semaines, plus 5% pour la Société Générale, leader du CAC 40 à 23,01 €, mais on était même réservé à la hausse en début de séance alors que le titre gagnait plus de 7%. Donc vous voyez déjà, on réduit un petit peu la vapeur. Du côté des valeurs des services aux collectivités, de la construction aussi, vous vous souvenez, elles ont été largement attaquées la semaine dernière. Bouygues reprend quasiment 4%, on est à 31,16 €, on a Vinci plus 4,34 € à 102,65 €. À noter aussi les médias qui ont largement souffert aussi, avec TF1 qui gagne 6,5% à 7,77 €. Donc voilà, on peut parler de rattrapage. Du côté des valeurs du SBF 120, à noter quand même deux valeurs très volatiles qui sont en baisse. Deux valeurs sur 120, c'est quand même un bon score. Mais Casino perd 2,6%. Et on a Sartorius Stadium qui perd 0,95% à 151,95 €. Un coup d'œil sur le marché obligataire, parce que là aussi c'est important et les réactions est très parlante. On a une très légère tension sur la dette française 10 ans, on est à 3,31, mais ça s'est beaucoup plus largement tendu du côté de la dette allemande, à 2,55. Donc du coup, le spread est en train de se réduire, mais c'est les tensions du côté de l'Allemagne qui en sont le principal responsable. Du côté de l'euro-dollar, on s'est bien renforcé, mais enfin, bon, ça reste quand même minime, 1,0752 face au dollar. On a gagné quelques points pendant la séance d'hier soir hein, sur les transactions électroniques. Le CAC 40, donc plus 2,11%, 7637 points. L'euro-dollar, 1,0753, Lorraine.
Merci beaucoup Antoine pour ce point. Voilà, le CAC 40 qui rebondit, mais les incertitudes qui persistent, qui sont toujours là. On vous retrouvera dans moins d'une heure pour faire le point sur les marchés. Et puis on parlera de ce qu'il faut attendre cette semaine. Et on reparlera du marché obligataire. Hein. Vous suivez avec attention pour nous, cher Antoine. À tout à l'heure.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Rapide journal, avant de débattre des sujets d'actualité qui vous concernent en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur ou wannabe investisseur, c'est la moitié de l'année, c'est le moment de faire le bilan, notamment le bilan boursier, et on peut dire qu'on peut oublier le mois de juin côté bourse. Notre CAC 40 termine en forte baisse avec une chute de 6,42%, c'est sa pire performance mensuelle depuis 2 ans. L'incertitude autour du résultat des élections a fait grimper le taux d'emprunt français et chuter les actions, ce qui pousse les investisseurs à se mettre à l'abri. La situation n'est pas forcément prête de s'améliorer pour la Bourse de Paris parce que les résultats du premier tour des élections n'augurent peut-être pas grand-chose de bon pour notre CAC 40. On suivra évidemment ça dans cette émission. Un mot de crypto, c'est parti pour l'ETF Solana Spot. Nous vous en parlions dès vendredi avec Amaury de Tonquédec. Les gestionnaires de fonds américains VanEck et 21 Shares ont tous les deux déposé une demande d'ETF Solana Spot auprès de la SEC, hein, le régulateur financier américain. Bon, en réalité, hein, Maureen nous le disait déjà, les chances d'approbation sont assez faibles, mais la date de fin de validité de la demande est prévue après les élections américaines. Et ça n'est pas un hasard, parce que l'administration Biden est plutôt réticente envers les cryptos, envers les crypto-monnaies. Mais les deux gestionnaires que je viens de vous citer parient que Donald Trump, qui est beaucoup plus ouvert sur le sujet crypto, remportera l'élection en novembre prochain. Côté international, vous avez entendu Johan qui vous disait que le président hongrois Viktor Orban va prendre la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Le New York Times, de son côté, appelle Joe Biden à se retirer après l'échec du débat de la semaine dernière. Et puis, ça vote aussi outre-Manche. L'élection générale anticipée au Royaume-Uni aura lieu ce jeudi. Les sondages prédisent une victoire écrasante du parti travailliste, ce qui a envoyé la livre, le pound, à des niveaux jamais vus depuis le vote sur le Brexit en 2016. On va continuer à faire le point sur les marchés avec nos deux traders du jour.
Tout pour investir, le match des traders.
L'équipe du lundi pour nous éclairer en ce lundi matin, c'est Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil, et Stéphane Sauduteil, responsable du site technibourse.com. Bonjour à tous les deux, messieurs. Sur le front.
Bonjour tout le monde.
Sur
Bonjour
le front des statistiques, la semaine va être riche en données économiques qui vont peut-être donner le ton de la semaine. Comment démarrez-vous la séance? Peut-être Stéphane, pour commencer, comment appréhendez-vous cette journée post-élection?
Mais écoutez, il semble que les marchés financiers soient un petit peu plus soulagés, que le Front populaire s'éloigne peut-être un petit peu de la prise de pouvoir. Hein. On voit hein, cette hausse de 2%. Elle était même plus importante à 8 heures. Hein. On était quasiment à 7720 points, 7725 points. Même si là, on s'est un petit peu effrité. Alors, c'est pas suffisant hein, pour inverser cette tendance baissière hein, qui est là depuis bien sûr quelques semaines. Pour repasser vraiment du bon côté de la barrière, il faudrait repasser au-dessus des 7720, 7750 points. Donc, on est encore loin de ce scénario. J'ai l'impression en fait que on va être encore dans une semaine un petit peu d'incertitude en attendant le résultat définitif des élections dimanche soir prochain et surtout lundi matin prochain. On a certainement touché un point bas majeur quand même autour des 7450, 7500 points. Je pense que ce sera probablement difficile de revenir dans cette zone, mais revenir en cours de semaine vers les 7550, 7600 points me semble être tout à fait possible. J'aurais tendance à être un petit peu à l'achat sur ces niveaux-là, autour des 7600 points pour viser 7720 points. Est-ce que on réussira à déborder les 7720, 7750 points? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment possible cette semaine, hormis des chiffres macroéconomiques, hein, puisqu'on a quand même les PMI manufacturiers aux États-Unis, l'indice ADP sur les créations d'emplois, l'indice des services jeudi, le NFP vendredi. Donc il y a quand même matière également à avoir un petit peu d'aide extérieure, hein. Voilà, mais j'ai pas l'impression quand même qu'on puisse vraiment partir beaucoup, beaucoup plus haut. Là, il y a un petit soulagement, mais est-ce qu'il sera de courte durée? On a plutôt l'impression que c'est le cas, hein, puisque depuis 8 heures ce matin, le marché ne fait que rebaisser, même s'il a un petit peu l'aide des futurs américains qui sont orientés à la baisse. Mais voilà, je vais rester quand même assez optimiste et disant être plutôt à l'achat autour des 7600 points pour viser 7007.
L'optimisme de notre Stéphane Sauditeil. Quel est votre regard, cher Jean-Louis Cussac?
Eh bien, vendredi, nous étions restés à des ventes plutôt de volatilité, plutôt que des ventes de futurs ou de recherche directionnelle. Et ce matin, la vol est passée de 23,24 à 17,5. Là. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Ensuite, ce matin, là, le problème, c'est que ça va vite, hein, puisque on a déjà perdu un 38% sur le plus haut, 1% sur le plus haut de séance. Moi, j'ai fait vendre sur ce niveau, j'ai vendu un petit peu, j'ai racheté, j'ai vendu, j'ai racheté, j'ai fait 3-4 fois. Il n'y a pas de quoi prendre de directionnel fort, mais en gardant un petit sol vendeur, c'est-à-dire qu'on reprend la stratégie qu'on avait précédemment, c'est-à-dire un peu vendeur quand même. Donc voilà, on est dans cet esprit, c'est-à-dire qu'on vend un peu parce que on salue les choses. Alors, dire que c'est un peu rapide, un peu vite fait, et que c'est fragile, ou peut-être, probable, le marché va rester hésitant, va rester fébrile, il va évoluer au gré des nouvelles, bien évidemment, c'est évident. Maintenant, difficile de monter une stratégie directionnelle partant de cette situation où, en fait, on est à la merci d'émotions, bien sûr, mais aussi d'annonces. Les législatives françaises sont pas terminées, donc cette semaine va rester certainement volatile au gré des annonces. Et c'est vrai qu'on peut facilement monter à 7008 ou retourner à 7005 parce que on n'a pas beaucoup de densité. Les différents acteurs, que ce soit les gérants, les spéculateurs, les gens comme moi qui font un peu de swing, un peu de d'opérations comme ça, au gré des mouvements, mais toujours avec une position de fond en général. Sauf que là, je ne l'ai plus, cette position de fond vendeuse, parce que voilà, le marché, il est trop sujet aux aléas événementiels, on va dire. Donc, on va rester prudent. Il faut pas non plus céder à la cupidité d'aller acheter des actions qui sont en retard parce que c'est pas terminé. Hein. Mais c'est vrai que les petits achats qu'on a commencé à faire la semaine dernière sont plutôt corrects. C'est sûr que même on peut s'étonner parce que on a massacré Vinci, Bouygues, Engie sur le fait que le Front National pouvait venir, enfin le RN pouvait revenir au pouvoir. Ils reviennent et elles remontent assez violemment ce matin. Vous voyez comme quoi le pire n'est pas certain. Et je répète, entre les promesses et la réalité avec les politiques, on le sait, il y a un gap très important. Donc moi, en tout cas, je ne suis pas inquiet plus que ça. En tout cas, pour l'économie, hein, je parle. Je reste à ce que je connais. Le reste, c'est personnel. Mais donc, les marchés, si vous voulez, le prennent plutôt correctement pour l'instant. Il n'y a pas de quoi paniquer davantage que la semaine dernière. Pas de quoi se réjouir d'une manière incroyable. On est avec un résultat conforme aux attentes. Voilà, donc le marché surréagit toujours. Donc globalement, je reprends un biais un petit peu vendeur, mais pas plus que ça, je pense. Je pense qu'on va résister cette semaine dans l'attente donc du second tour. Et à noter la belle reprise de l'euro, qui est toujours ce côté un peu confiance dans la zone. Mais il est vrai que les dernières statistiques, PCE, etc., montre que l'économie américaine va vers deux baisses de taux peut-être cette année ou trois, et enfin deux plutôt, mais et voilà, c'est le dollar aussi, lui, il est affaibli, il a une force de rappel à la baisse un petit peu, si vous voulez. Il y a comme une laisse qui fait que l'euro, du coup, émerge de deux manières. Un peu, on se rassure sur la zone euro, et puis le dollar qui est un petit peu à la baisse.
Et oui, parce que vendredi, c'était PCE au corps. Et oui, après trois mois de stagnation, le PCE est tombé à son niveau le plus bas depuis mars 2021, à 2,6. Merci Jean-Louis pour cet éclairage. Merci Stéphane pour votre analyse. Les niveaux techniques à suivre, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes. Si vous avez besoin d'éclairage sur votre journée de trading. Évidemment, vous retrouverez aussi Guillaume Sommerer, Julie Cohen et toute l'équipe de BFM Bourse dès 15h30 pour suivre la journée sur les marchés. Avant ça, nous allons débattre des actualités tout court qui ont un impact sur vos finances personnelles, sur votre patrimoine, avec l'équipe du lundi.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
L'équipe du lundi, c'est Mathias Bacino, directeur des marchés européens pour Trade Republic. Bonjour cher Mathias.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Gustave Sonden est avec nous, cofondateur de Colbert. Bonjour Gustave.
Bonjour Lorraine.
Notre belle Julie Cohen est ici, aux manettes de BFM Bourse. Bonjour Julie.
Bonjour Lorraine.
Gros programme évidemment pour décrypter l'impact de ce premier tour des élections législatives sur notre épargne. L'impact ou le potentiel impact. Nous écoutions attentivement nos deux traders et puis avant cela Antoine qui nous commentait, qui nous décryptait ce que fait le CAC. On a du mal à parler de soulagement, mais techniquement c'est ce qu'on observe. Le CAC est dans le vert ce matin. Mathias, comment on explique à ceux et celles qui nous écoutent ce cynisme ou ce réalisme des marchés ?
On peut dire plusieurs choses. La première, c'est que ici, c'est notre rôle que de donner des repères aux gens pour la partie financière de leur vie, c'est-à-dire pour leur épargne, pour leurs investissements. Il va de soi qu'on a tous ici un avis par ailleurs, mais l'objet de cette émission, c'est précisément de donner aux gens des repères sur leur épargne, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on peut dire, c'est que les élections françaises ont eu lieu dans un contexte global, mondial, plutôt favorable au marché actions. Les nouvelles aux États-Unis sont plutôt bonnes, en ce sens que les chiffres de la semaine dernière nous laissent penser qu'on aura une détente des taux américains à partir du mois de septembre. Et de manière générale, les PMI chinois ont été excellents la semaine dernière aussi. Donc, on a un contexte global qui est positif pour les marchés actions. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces élections en France, le CAC 40 serait probablement en train de taper ses plus hauts historiques de nouveau cette semaine. Je veux dire, il y a absolument rien qui laisse présager de l'inverse. Donc, au-delà du cynisme de la réaction des opérateurs, il y a autre chose que ça, c'est-à-dire un contexte global qui dit, voilà, les marchés actions dans le monde ont plutôt tendance à aller bien. Mm-hmm. Donc le marché français, dans ce cadre-là, réagit aussi avec ça. Si le marché américain était en train de se casser la figure, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui le rebond qu'on a eu. Donc c'est le contexte global est très important. Ensuite, on a un contexte technique aussi qui avait énormément de positions short sur le marché français, de grands fonds spéculatifs, parce qu'il y avait un autre risque économique perçu comme plus important, qui était le programme à 180 milliards d'euros de déficit du nouveau Front Populaire. Donc, il y a ce soulagement-là de ne pas voir les finances publiques françaises se dégrader davantage, a priori. C'est ça le principal événement, je dirais. Après, les impacts d'une absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour quelque parti que ce soit, ou quelque coalition que ce soit d'ailleurs, a priori serait plutôt positif pour les marchés, puisque les économistes, les analystes semblent dire qu'un gouvernement technique, même s'il serait bien triste à bien des égards dans notre pays éminemment politique, serait pour l'économie plutôt une bonne nouvelle. Donc, entre le contexte général, le scénario principal qui est celui d'un gouvernement technique aujourd'hui et l'absence d'impact négatif sur les finances publiques puisque le nouveau Front Populaire n'a pas eu la majorité, voilà ce qui explique la réaction des marchés ce matin, je pense. C'est les trois critères principaux.
Gustave, vous voulez faire un petit parallèle avec les réactions sur les marchés comparables au cours des dernières années, si on peut dire.
C'est vrai qu'on peut s'émouvoir des résultats. Mais en tout cas, c'est pas la première fois en Europe et même en Occident qu'il y a des candidats dits populistes qui arrivent en tête aux élections et parfois qui gagnent. Et donc on a eu, on en a d'ailleurs parlé ici, Milei encore cette année, plus 15% sur les marchés argentins depuis son élection. On a eu Meloni en Italie qui est aussi accompagnée de bonnes performances sur les marchés financiers. Donc si on regarde stricto sensu, quel impact sur les marchés financiers, qui est un peu notre travail ici, Mathias le rappelait, n'y a pas de raison d'être trop inquiet, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense soulignent les marchés ce matin, d'un scénario peut-être Rassemblement National. En revanche, je pense que ce que les marchés redoutaient beaucoup, c'est plutôt la situation chaotique où il n'y aurait pas de clarté, où il y aurait un gouvernement ingouvernable, justement, ou une assemblée ingouvernable. Et ça, pour le coup, on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner, voire pire, peut-être un scénario de sursaut du nouveau Front populaire reste un scénario envisageable. Toutes les alliances sont en train d'être discutées en ce moment, en tout cas du point de vue du marché. Donc, je pense que l'incertitude, c'est plus notre ennemi, finalement, que la certitude. Et en l'occurrence, la certitude d'un gouvernement populiste de droite. On a plutôt des exemples bons sur les marchés financiers, en tout cas en Europe.
On prend un pas de côté et on se demandait en préparant cette émission si la France allait si mal. Est-ce que la France va si mal, Mathias? Qu'en peut-on dire si on prend un peu de recul?
Non, mais c'est effectivement des postes qui m'ont beaucoup marqué parce que l'ambiance est quand même extrêmement négative. On a l'impression que tout va mal dans notre pays. Il y a des choses qui vont mal, c'est une évidence. Mais néanmoins, pour ce qui concerne l'économie, on peut quand même rappeler que depuis 2000, c'est le pouvoir d'achat par habitant des Français qui a le plus progressé en zone euro. On peut quand même rappeler que la France, avec la Finlande, est l'un des pays d'Europe qui a le plus faible taux de pauvreté. On peut aussi rappeler que la France, en Europe, est l'un des pays avec la plus faible part de la richesse des 1% les plus riches dans la richesse totale, avec autour de 21 points. C'est 30 points, par exemple, en Allemagne. C'est 35 points en Suède. Donc, on peut aussi rappeler que la France peut se permettre encore aujourd'hui d'avoir 31% de dépenses sociales publiques. Donc, les choses ne vont... Quand on regarde objectivement, force est de constater qu'avec le taux de chômage actuel, avec la croissance qu'on a connue ces 20 dernières années, bien sûr, il y a le décrochage face aux États-Unis, on en est tous conscients. Bien sûr, il y a le dépassement de la Chine, on en est tous conscients. Mais en Europe, la France ne va pas si mal. Il y a aujourd'hui le risque principal qui pèse sur notre pays, qui est de manière évidente les finances publiques, puisque une attaque spéculative contre la France des fonds internationaux ferait très mal à tout le monde, y compris les classes moyennes et les classes populaires, sans doute en premier les classes moyennes et les classes populaires. Mais au global, notre pays ne va pas si mal. C'est aussi pour ça, je pense, que les marchés financiers ne s'inquiètent pas trop, parce que quand on regarde les partis qui sont arrivés en tête ou l'hypothèse d'un gouvernement technique, force est de constater que les projets économiques consistent principalement à ne pas trop abîmer ce qui marche bien dans notre pays.
Mais il y a quand même aussi la question de l'attractivité de la France auprès des investisseurs, parce que ça, c'est la situation à date, mais en fonction de ce que donnera lieu le deuxième scrutin, il y a quand même cette crainte de la part des investisseurs internationaux, parce que mine de rien, depuis quelques années, on était quand même porté par cette volonté de valoriser l'entrepreneuriat, de valoriser les entreprises, et ça, j'ai l'impression qu'au niveau européen, il y a quand même une inquiétude de la part des investisseurs sur les nouvelles stratégies qui pourraient être mises en place pour les investisseurs, pour les entrepreneurs.
Ce qui était au rendez-vous, on rappelle les excellents résultats trimestriels de nos entreprises.
Pour moi, les deux facteurs dont le marché ne tient pas compte aujourd'hui, c'est le risque de troubles à l'ordre public, parce que ça, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est toujours
et on
pareil,
sait que la sécurité est une des préoccupations des investisseurs que vous évoquiez, Julie.
Donc, des troubles à l'ordre public en cas de majorité absolue du Rassemblement National, ça fait peu de doute, malheureusement, dans notre pays. Donc, il y a ce risque-là, évidemment, qui est très élevé pour tout le monde. Hein. Et le deuxième risque, bien sûr, c'est la perte d'attractivité. C'est-à-dire, si on a un gouvernement extrême au pouvoir en France, quand bien même sa politique économique serait favorable au développement économique, eh bien, une politique qui, par ailleurs, serait extrême pourrait générer, effectivement, beaucoup de peur de la part des investisseurs, un retrait de l'embryon de réindustrialisation que notre pays connaît. Donc il y a des choses effectivement qui à moyen long terme peuvent être absolument catastrophiques pour notre pays et pour son économie. Moi, ce que je regarde, ma boussole dans cette situation là c'est le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires, et à l'heure actuelle il a l'air d'être préservé.
Gustave.
Moi, ce que je regarde dans tout ça, c'est quand même effectivement le déficit qui finance justement la bonne situation que Mathias vient de décrire, et déficit qui est aussi une boussole pour notre attractivité et les investisseurs extérieurs. Et il se trouve que ce déficit, c'est aussi une petite protection quand même au niveau des marchés. parce qu'en fait, on peut pas faire ce qu'on veut. Quand notre premier poste de dépense, c'est nos intérêts, on peut pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose qui rend optimiste certains investisseurs. C'est-à-dire que finalement, même une majorité RN, elle serait quand même contrôlée sur les marchés, parce que personne n'a envie de prendre une grosse secousse sur les taux d'intérêt, qui est donc notre premier poste de dépense au niveau de l'État. Donc tout le monde sera très vigilant à tout ça. Je rappelle que la France, c'est 285 milliards d'émissions obligataires cette année. 100 milliards restent à financer. C'est à peu près 10% du stock global. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre un énorme spread de taux avec une situation comme celle-ci? Je pense pas. Je pense qu'aucun gouvernement n'a envie de le faire pour lui-même, c'est-à-dire dans sa capacité de financement, ni pour les Français qui eux aussi souhaitent se financer et investir.
Voilà, sur ces sujets, la solvabilité de l'État et des ménages n'est pas si menacée pour l'instant. On continuera à surveiller ces sujets, à les décrypter pour comprendre ce que ça signifie pour nous, investisseurs particuliers. On va finir sur une note très pratico-pratique, si vous voulez bien, avec vous, Julie. Vous nous rappeliez, Mathias, que les marchés américains vont bien et continuent leur hausse, leur montée. Il y a une manière de jouer cela dans votre PEA grâce à une internationalisation de notre PEA possible grâce aux ETF. Julie, vous nous racontez en quelques chiffres.
Exactement, parce que finalement, quand on pense PEA, on a tendance à penser action française et basta. Mais si je vous dis quand même Lorraine 882, eh bien aujourd'hui c'est le nombre d'ETF qui sont actuellement agréés en France. Sur ce total, il y en a 102 que vous pouvez acheter dans le cadre de votre PEA. Et effectivement, quand on se dit PEA, eh bien on pense uniquement action française, alors que pas du tout. Dans le cadre d'un PEA par le biais d'ETF, eh bien un investisseur, il peut aussi aller chercher la performance de zones géographiques qui sont situées hors Europe, et donc c'est le cas effectivement des États-Unis, du Japon, des marchés émergents, bref, du monde entier. Il peut aller aussi chercher d'autres secteurs hors zone euro, et ça effectivement, on le sait pas forcément. Alors par exemple, on peut citer l'ETF Amundi, ils sont beaucoup positionnés là-dessus, PEA US Tech ESG, qui est noté Gold par Morningstar, et il permet par exemple de tirer parti de l'évolution de la bourse des sociétés, donc de la tech américaine, avec un filtre ESG. Alors, on le rappelle quand même, les ETF, en 15 ans, ils ont gagné en popularité pour deux raisons. D'abord, ils ne coûtent pas très cher.
C'est vrai, Christian Fontaine nous le rappelle toutes les semaines.
Voilà, on parle souvent d'ETF. Et puis ensuite, il y a finalement peu de gérants actifs qui parviennent à battre un indice sur le long terme. Et donc, on passe un petit peu au concret. Si vous vous intéressez de près à ces ETF qu'il est possible d'intégrer dans votre PEA, sachez que Morningstar a proposé une liste très pratique d'ETF PEA-able, ils ont inventé un mot, je ne sais pas si vous le connaissiez, Lorraine. Et parmi eux, on retrouve notamment, ça va devenir notre nouveau mot, du lundi, des ETF qui sont principalement gérés par Amundi. Il y en a 69 qui sont gérés par Amundi. Il y a aussi 9 ETF qui sont proposés par Cher. Donc c'est intéressant de se dire qu'on peut investir hors zone euro par le biais du PEA. C'est sécurisé et c'est pratique.
Mais oui, BlackRock, eh bien, sa marque iShares a sorti un petit PEA, un petit ETF tout préparé pour nos PEA, on en parlait il y a quelques semaines. Un mot, évidemment, on n'est pas ici pour faire du conseil en investissement, mais on sait que vous aimez le PEA, Mathias. Gustave, vous avez échappé à notre débat PEA versus PER ce matin, nos chers auditeurs, vous aussi. Un mot sur ce qu'on peut faire cette semaine, ce qu'on doit regarder en tant qu'investisseur particulier pour finir. Il y a pas mal de chiffres cette semaine, pas mal de macro aussi qui peut influencer nos investissements. Qu'est-ce qu'on peut recommander à ceux et celles qui voudraient quand même faire quelque chose cette semaine et qui ont des liquidités?
Je pense qu'il est assez clair qu'il faut continuer d'alléger la France, très clairement. Je pense que c'est ce qu'ont fait la plupart des investisseurs, y compris français, pour limiter le risque en cas de réaction violente de tel ou tel secteur d'activité dimanche prochain. On ne sait, avec cette question des désistements, on n'a aucune idée, la vérité, c'est qu'on n'a aucune idée de savoir ce qui va sortir finalement de ce second tour. C'est par ailleurs, après les vacances, le début des vacances scolaires, donc on ne sait pas combien de personnes aussi n'iront pas voter. Donc il y a toujours une interrogation. Donc à mon avis, il faut savoir rester prudent, particulièrement sur la partie exposition française.
Lundi prochain, si vous voulez bien, on fera un point en fonction des résultats de dimanche sur les secteurs sur lesquels on peut miser.
Oui, pour le second semestre.
Vendu, si ça vous va. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Mathias Bacino, directeur des marchés européens chez Trade Republic. Merci Gustave Sondane, cofondateur de Colbert. Et merci Julie Cohen, qu'on retrouve de BFM Bourse dès 15h30 pour continuer à décrypter cette journée. Vous restez avec nous. Dans quelques minutes, Nicolas Dose arrive. On va revenir sur la décision de Gabriel Attal de supprimer, ou plutôt de mettre en pause la réforme de l'assurance chômage. Le décret devait paraître aujourd'hui. Ça ne va pas vous surprendre, ça ne plaît pas du tout à Nicolas Dose. Décryptage à suivre.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose qui nous rejoint. Bonjour cher Nicolas.
Bonjour.
Vous nous parlez d'une décision qui est tombée tard hier soir. Le Premier ministre Gabriel Attal a suspendu la réforme de l'assurance chômage. On commence par... l'effet de ces dernières années.
Alors l'effet, c'est qu'il n'y a plus de réforme de l'assurance chômage en perspective. À Matignon, on veut nous expliquer qu'elle n'est pas morte et enterrée, qu'elle est reportée, qu'on fait pause, qu'on en rediscutera. Bon, on verra. En tout cas, il fallait éviter un vide juridique, parce qu'à compter de ce matin, les règles d'indemnisation du chômage étaient suspendues, l'intégralité. Donc il a fallu un décret un peu technique, un décret de jointure qui a été publié au Journal officiel, de manière à ce que les affaires courantes continuent, et que... aujourd'hui, l'UNEDIC soit en mesure d'indemniser les demandeurs d'emploi. Et dernier élément, je vous rappelle que les deux blocs arrivés en tête ont tous les deux dit qu'ils abrogeraient la réforme de l'assurance chômage en cas de victoire. Le NFP est même allé plus loin en disant qu'ils abrogeraient toutes les réformes de l'assurance chômage qui ont été engagées sous Emmanuel Macron.
Est-ce que, selon vous, l'exécutif a raison de marquer cette pause ?
Alors, pour tenter une réponse, en fait, j'ai repris les trois critiques formulées à l'unisson par les principaux syndicats de salariés, par tous les syndicats de salariés, contre cette réforme. Les trois critiques, c'était réforme inutile, réforme injuste et réforme la plus violente de l'histoire sur l'assurance chômage dans notre pays. Première critique, est-ce qu'elle est inutile ? Alors là, moi je réponds, non, elle n'est pas inutile. Tous les pays qui ont réformé l'assurance chômage ont tous utilisé les mêmes paramètres pour réformer l'assurance chômage. Et donc, on a des retours d'expérience. On a des études empiriques sur ce que produisent telle ou telle décision sur tel ou tel paramètre. On observe que lorsque l'on réduit la durée d'indemnisation, ça accélère le retour vers l'emploi. On l'avait déjà dit ici, l'individu est sensible à l'effet d'horizon. Et c'est toujours dans les... partout où ça a été observé, c'est dans les trois mois qui précèdent l'arrêt des droits qu'il y a une vraie accélération pour retrouver un job. Et de la même manière, quand on durcit les conditions d'éligibilité à l'indemnisation, ça a un effet sur les comportements. Et ça aussi, ça a été observé. Souvenez-vous, avant, il fallait avoir travaillé 4 mois et on est passé à 6 mois. Bien, on a vu les comportements à la fois des employeurs et à la fois des salariés se sont adaptés et on a vu des contrats qui auraient été des contrats de 4 mois qui devenaient du coup des contrats de 6 mois. Donc ça a un effet sur les comportements. Donc non, ça n'est pas inutile. Et non, ça n'est pas inutile non plus pour faire des économies budgétaires. Oui, l'assurance chômage, c'est vrai, est aujourd'hui excédentaire parce que le chômage a été en diminution. Mais il y a quand même encore 55 milliards, plus de 55 milliards de dettes. Donc il y a une dette structurelle dans l'assurance chômage. Et donc il y avait des économies à la clé. Ça n'est pas inutile non plus pour réaliser des économies.
Ça n'est pas inutile. Ok, première critique. Deuxième critique, est-ce que cette réforme est injuste, comme le disent certains syndicats ?
Est-ce qu'elle est injuste ? Réponse en deux points. Alors, non, elle n'est pas injuste sur le cas des seniors. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle prévoyait, cette réforme ? Qu'il n'y ait qu'un seul âge pivot qui vous fait rentrer dans la catégorie senior. Il y en avait deux avant. Et donc, les seniors commençaient à 57 ans, alors qu'avant c'était 55 ans. Il est assez cohérent, assez logique de d'abord de n'avoir qu'un seul âge pivot et d'avoir fait coller l'évolution de cet âge pivot à l'évolution de l'âge de départ à la retraite, puisqu'on a repoussé l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, plus 2 ans. Donc on bougeait également la borne d'âge correspondant à l'assurance chômage. Jusque-là, ça semble à peu près cohérent. Après, il y a un risque d'injustice qui existe effectivement pour les populations les plus éloignées de l'emploi. C'est évident, quand vous durcissez quelque chose, les gens qui sont les moins bien armés pour faire face à ce durcissement sont potentiellement les perdants. Et comme ce sont en plus les gens les plus précaires, on peut considérer que là, il y a une forme d'injustice, pour reprendre le terme utilisé par les syndicats de salariés.
Troisième critique des syndicats de salariés, c'est la réforme, je cite, la plus violente qu'on ait jamais vue. Est-ce que c'est juste ?
C'est totalement vrai. On n'a jamais eu une réforme aussi violente, et puis en plus qui suivait une réforme qui était déjà sévère. Parce qu'on, là, on s'apprêtait quand même à tomber à 15 mois d'indemnisation contre, au départ, 24 mois. Ouais. Mais après, quand vous prenez tous les critères qui composent le régime d'assurance chômage en France, eh bien, malgré ce durcissement violent, c'est vrai, on conservait, je dis bien conservait, des critères d'indemnisation parmi les plus généreux des pays de l'OCDE. La moyenne de la durée d'indemnisation en Europe, c'est 12 mois. On était encore à 15 mois. Et on était tombé à 18 et on partait de 24. Mais pas, c'est vrai que partir de 24 mois pour arriver à 15 mois, c'est quand même une réforme qu'on n'avait jamais vue. Et c'est vrai que probablement c'était la plus dure. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'effectivement, la question de départ, c'était l'exécutif a-t-il raison de faire pause ? Pour des raisons purement économiques, j'en suis resté effectivement, comme toujours, dans mon corridor, mon couloir. Mais oui, effectivement, il fallait conserver cette réforme. Après, on comprend les raisons politiques qui ont pu pousser à y renoncer. Je pense que là, on y a renoncé.
L'avenir nous le dira. Notre nageur de fond dans son couloir, Nicolas Dose, exit la réforme de l'assurance chômage. Dossier à suivre, évidemment, sur BFM Business. Et tous les jours, dans Les Experts de Nicolas Dose, de 9h à 10h, à retrouver en podcast ou en replay, juste avant de regarder Tout pour investir. La chronique de Nicolas est également disponible sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Si vous voulez participer à la discussion, est-ce que l'exécutif a raison de faire pause sur cette réforme de l'assurance chômage ? Vous avez la parole. À suivre, le regard de notre sage, de notre oracle, Julien Ebenzal, pour faire le point sur les marchés à actions.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Les marchés et vous et Julien Ebenzal, senior advisor chez Advice. Bonjour cher Julien.
Bonjour Lorraine.
Avec vous, on parle psychologie de l'investisseur, de l'investisseuse. Le lundi, tous les 15 jours, votre sagesse est appréciée par nos auditeurs, comme c'est bientôt la fin de l'année pour nous, de la fin de la saison, je me permets de vous le dire. Nous allons faire avec vous une sorte de cadre probable de l'évolution des marchés actions. Et vous allez nous lister, comment dire, les grands comportements qui vont influencer ce que ce marché, ces marchés vont faire. On commence par quoi ?
En fait, une manière d'esquisser en fait une évolution possible cet été des marchés d'actions, c'est de reprendre l'évolution telle qu'on l'a justement décrite dans cette émission. Chaque mois, plusieurs thèmes ont été abordés. Et je vous propose de passer en revue justement les principaux thèmes qu'on a vus à l'occasion du semestre, parce qu'ils vont nous donner en fait l'état des choses à aujourd'hui. On avait commencé en janvier par notamment citer l'effet janvier. Pour rappeler ce point-là rapidement, au mois de janvier, on a, toutes choses égales par ailleurs, des marchés qui ont tendance un peu à monter. La raison, elle est bien connue, c'est qu'à partir de mi-décembre, les opérateurs sont plutôt en dehors du marché et que finalement, il y a des hypothèses pour la nouvelle année qui se mettent en place. Donc, il y a une petite incitation à acheter plutôt qu'à vendre. Donc, on a toujours une impulsion haussière au mois de janvier, ce qu'on appelle l'effet janvier, et c'est ce qui s'est produit, puisqu'on a eu un mois de janvier qui a été globalement positif. Ensuite, en février, on avait analysé un autre point, qui était une des questions qui étaient posées par plusieurs de vos auditeurs téléspectateurs, c'est pourquoi on a peur quand ça monte, quand les marchés montent. Et on avait vu justement que quand les marchés montent et qu'il n'y a pas d'indication particulière, eh bien l'investisseur de long terme, lui, il n'éprouve pas de sentiments particuliers, mais l'investisseur de court terme, il est face à soit gagner, soit perdre s'il investit, et on sait qu'on n'y a pas de symétrie entre gagner et perdre dans le comportement de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on est plus averse à la perte. Donc finalement, quand un marché monte sans qu'on ait trop d'explications, à court terme, on a un peu peur que ça ne fonctionne pas si on se mettait à acheter, la peur l'emporte, et c'est comme ça qu'on a ce fameux effet. Et on avait vu en mars un effet qui va presque un peu avec dans la séquence, en fait, du sentiment des investisseurs, c'est le fameux FOMO, le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose qui fait que finalement, on se met à acheter, par exemple, des actions sans trop vraiment savoir pourquoi, mais au motif principal que c'est en train de monter. Et ça, le fear of missing out, c'est une indication relativement intéressante de l'état du sentiment du marché. On est arrivé en avril, on avait posé la question de la volatilité. Pourquoi ? Parce que la volatilité en avril était montée, quelque part entre le 5 et le 15 avril. Et elle était montée, ce qui veut dire que tout d'un coup, on avait des mouvements, notamment à la baisse, sur les indices actions qui étaient apparus. C'est relativement logique après l'épisode FOMO, puisque le FOMO pousse à acheter un peu tout ce qui vient, eh bien, les derniers achats ont été faits, donc il peut y avoir des trous d'air. Et ce trou d'air, en plus, celui qu'on avait en avril, il venait d'une première correction sur Nvidia. Alors, on s'en souvient pas, mais en avril, elle a baissé entre le sommet et le creux d'environ 25% Nvidia. Et comme on avait tout le trimestre qui s'était passé, finalement, sous l'impulsion de ce Nasdaq et des valeurs liées à l'intelligence artificielle, eh bien, on se posait la question, finalement, est-ce que c'est bien la correction ? Donc, cette correction, elle est arrivée et les marchés sont revenus relativement vite au niveau antérieur. Et puis en mai, on a fait quoi ? On a analysé le fameux, le grand classique, la grande saisonnalité des marchés, le sell in May and go away. Donc sell in May and go away, c'est a priori la performance des marchés actions de mai à octobre est en moyenne inférieure à celle de l'autre partie de l'année, c'est-à-dire d'octobre jusqu'à avril. Alors, parfois la performance est clairement négative, parfois elle est quand même positive, mais de très moindre mesure, et d'ailleurs une performance en général de faible qualité quand elle est positive. Ce qui fait que la logique voudrait qu'au mois de mai, ben, on commence à alléger son portefeuille. Mmh. Mais si on regarde justement toute la séquence, c'est très logique, parce que le marché a commencé à monter avec un effet janvier. Ensuite, on s'est dit, mais puis finalement, pourquoi ça monte? On a peur que ça baisse. Ensuite, le fear of missing out, c'est-à-dire, bon, ben, finalement, on y va. Puis le premier phénomène de correction avec Nvidia, qui permet de remettre les choses en place. Et on s'aperçoit quoi aujourd'hui? Et c'est la première étape de la conclusion. C'est que les marchés actions européens sont globalement assez nettement sous leur sommet qu'on a atteint entre fin mars et pour certains, ou éventuellement au mois de mai pour d'autres. Ils se situent sous cette borne, sous ces derniers sommets, c'est-à-dire qu'ils ne progressent plus. Ils ont entamé véritablement une consolidation. Alors la question c'est, est-ce que cette consolidation va se prolonger? Je pense que oui.
Alors là, oui, je vais le formuler autrement si vous voulez bien, Julien. Quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être? Est-ce qu'il faut être optimiste, pessimiste? Est-ce qu'il faut être sceptique ou dans la joie?
Alors, ce sont effectivement les grandes étapes telles que Templeton les avait données de manière anecdotique. Donc, un marché haussier commence dans un grand pessimisme. C'est normal puisqu'on est au plus bas. Et puis, il progresse et le pessimisme devient un scepticisme. Puis ensuite, ça devient de l'optimisme. Et dans
certains cas, Julien, on vous perd. Vous avez un très très mauvais son. Julien, on est en train de vous perdre. On va essayer de vous reconnecter. Est-ce que vous nous entendez mieux là?
Moi, je vous entends très bien. Ouais. Moi,
il faut reprendre sur votre conclusion parce qu'on a eu un petit problème technique de son.
D'accord. Donc, Templeton, justement, ce sont ces quatre séquences, hein, le pessimisme, le scepticisme, l'optimisme et dans certains cas, l'euphorie. Qu'est-ce qu'on a connu au cours du premier semestre? On est parti à la fin de l'année dernière dans le pessimisme. Le scepticisme, c'est vraiment pourquoi on a peur quand ça monte. Et puis le FOMO, c'est un début d'optimisme. D'où le phénomène de consolidation. Mais on n'est pas allé très très loin dans l'optimisme, selon moi. En tout cas, on n'y a pas passé beaucoup de temps, puisqu'on a dû y passer au total moins d'un mois. Donc quand on regarde tout ça, on a l'impression que le cycle de l'émotion, le cycle du sentiment, n'est pas complet. Ce qui veut dire qu'on ira probablement encore plus haut plus tard, d'ici 6 mois, d'ici 1 an. On n'est pas allé suffisamment loin dans cette forme d'optimisme. Mais comme je l'indiquais, les marchés actions en Europe sont sous leur sommet. Et là, j'utilise de l'analyse technique. Il y a un ralentissement de la vitesse très net aux États-Unis, qui est le marché directeur. Et ce ralentissement net de la vitesse, en général, augure d'une consolidation. Donc nous, en Europe, on a consolidé, il y a notamment le phénomène français, mais on a consolidé finalement depuis 2-3 mois. Et les Américains, le marché américain, devrait lui aussi rentrer en consolidation. Mmh. C'est-à-dire cesser de monter aussi régulièrement que ça, et évoluer de ce qu'on appelle dans un range, c'est-à-dire entre une borne haute et une borne basse. Et compte tenu de tous ces éléments, et notamment la psychologie, l'état de la psychologie, finalement c'est ce qu'on peut attendre pour cet été, c'est un marché qui n'aura pas de tendance particulière, et donc il va falloir être patient avant que la hausse finalement ne reprenne. Je pense probablement autour de l'élection américaine et des résultats de celle-ci.
Être patient, voilà ce qu'on peut anticiper. En tout cas, c'est ce que vous anticipez, Julien Nebenzahl, Senior Advisor chez Advise. Merci beaucoup pour ce décryptage et puis ce calendrier des humeurs de la psychologie boursière qu'on a pu faire avec vous ces derniers mois. Merci pour votre éclairage à retrouver en podcast et en replay, cher Julien Nebenzahl, sur notre site et notre application. On va continuer à réfléchir à ce qui pourrait se passer. On va se demander si on peut rêver. Ça va être la séquence à suivre avec Thomas Veillé d'Investir.ch. Est-ce qu'on peut encore rêver en pensant peut-être que les marchés vont continuer à monter côté US? Comment ça peut se passer de notre côté? Le rêve à suivre.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach suisse Thomas Veillé depuis la Suisse au décryptage. Bonjour Thomas.
Bonjour Lorraine, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va très bien.
Chroniqueur, rédacteur, youtubeur, on vous retrouve sur le site investir.ch. On va parler de rêve avec vous. Est-ce qu'on peut encore rêver? Est-ce qu'on a encore le droit de rêver? Rêver de quoi? On va voir ça. Mais d'abord, est-ce que la semaine peut tout changer selon vous?
Ah bah comme toutes les semaines, hein. Si vous vous rappelez un petit peu, on démarre chaque semaine en se disant « Oui, ça va être complètement différent cette fois parce qu'on va enfin avoir les informations qu'on voulait. » La semaine dernière, on attendait les informations du PCE, on attendait les informations du PIB. Et cette semaine, eh bien, on va attendre tout ce qui tourne autour de l'emploi puisqu'évidemment, ce sera la clé de la semaine pour savoir si effectivement la Fed va pouvoir prendre une décision ou aura suffisamment d'éléments pour prendre des décisions. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, nous, les investisseurs, ou le marché en général, veut vraiment aller dans cette direction d'avoir cette décision de la Fed, alors qu'on sait finalement que la Fed, pour l'instant, veut du temps. Ils l'ont dit et répété la semaine dernière, et probablement que Powell va encore le répéter cette semaine quand il parlera. Eh bien, ils veulent du temps et plus de confirmation comme quoi l'inflation est en train de se calmer, que l'économie ralentit vraiment, pour ne pas s'emballer trop tôt et commencer à baisser les taux trop vite.
La semaine dernière, on a parlé de macro et d'inflation. Là, cette semaine, on va un petit peu plus parler de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Comment vous regardez le début de semaine?
C'est vrai que cette semaine, on a beaucoup de chiffres de l'emploi. On a les jobs, le nombre de postes disponibles aux États-Unis. On aura les chiffres ADP de l'emploi privé. On aura les non-farm payroll en fin de semaine. On a quand même au milieu de la semaine l'Independence Day, puisque jeudi, les Américains ne seront pas là. Donc, ce sera quand même assez important, ce qui veut dire qu'on aura une semaine un peu raccourcie. Mais au niveau de l'emploi, ce qui sera hyper important, bien sûr, ce sera déjà les non-farm payroll en fin de semaine. Alors, je rappelle pour mémoire que les derniers non-farm payroll qui sont sortis il y a un mois étaient nettement plus forts que les attentes. On va dire qu'à 95% de chance, ils vont nous les réviser à la baisse le mois dernier. Et puis ceci, on verra comment ils vont nous les donner. Alors, il faut bien voir aujourd'hui que le marché va être très, très attentif à ces chiffres. Puisque si ils sont en dessous des attentes, je crois qu'on attend autour de 160 000 créations d'emplois vendredi. S'ils sont en dessous, on va commencer à se dire effectivement l'économie ralentit. Et puis, la Fed va pouvoir ou va devoir agir très prochainement. En revanche, s'ils sont énormément en dessous, et on parle d'en dessous des 100 000 là, alors là, il va y avoir un gros coup de frein puisque les gens vont se dire « ça y est, l'économie est en train de caler ». Et en fait, la grosse problématique face à laquelle la Fed se trouve aujourd'hui, c'est qu'ils doivent absolument trouver le bon moyen de baisser les taux, ni trop tôt, ni trop tard, pour ne pas ralentir, pour ne pas baisser, enfin en guillemets, dynamiser l'économie et faire repartir l'inflation là-haut. C'est ça, ce sera le gros challenge de la Fed, et on voit que c'est vraiment une grosse problématique pour l'instant. On a vu récemment que le Canada avait baissé les taux très vite et que finalement l'inflation repart à la hausse, et peut-être que la BCE a peut-être fait la même erreur de baisser les taux très vite, et on verra les chiffres de l'inflation cette semaine aussi. Mais clairement aux États-Unis, ce sera l'emploi pour voir si l'économie continue dans cette tendance baissière.
Est-ce que vous avez entendu ce dont on discutait avec Julien Nebenzal juste avant vous?
Non, pas tout.
Pas tout. On essayait d'imaginer à quoi allait ressembler l'été boursier, et il nous donnait quelques éléments d'analyse technique pour conclure que, eh bien, les actions vont consolider cet été, mais que la hausse n'est pas terminée à long terme. Cette semaine, on n'est pas sûr d'avoir des réponses, en fait, à vous entendre.
Non, je pense qu'on n'aura pas les réponses cette semaine. C'est clair qu'aujourd'hui, déjà aux États-Unis, les marchés sont au plus haut de tous les temps, ou pas très loin en tous les cas. Faut pas oublier non plus que les objectifs qui ont été fixés par la plupart des banques d'affaires aux États-Unis pour les targets sur le S&P 500 se situent plus ou moins là où on est. Oui. Je crois que les plus optimistes sont à 5700, donc on est quasiment au plus haut de tous les temps, et on est quasiment sur les targets de la fin de l'année. Maintenant, il va falloir quand même justifier la suite de cette performance. Il y a une chose qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est qu'on a vu quand même ces derniers temps qu'il y avait 2-3 rotations de secteurs qui se faisaient aux États-Unis, entre la tech, l'intelligence artificielle et d'autres secteurs. Et on voit quand même que finalement, les marchés attendaient beaucoup. On l'a vu sur les chiffres de Micron la semaine dernière. On attend beaucoup, peut-être beaucoup trop. En fait, ce n'est pas que les sociétés vont mal, c'est juste que le marché attend tellement des résultats exceptionnels dans certains secteurs qu'ils vont vite être relativement déçus. Et en fait, une des choses qui sera très importante au-delà de la macro, eh bien, ce sera la micro qui va commencer à partir de la semaine prochaine avec les chiffres trimestriels qui pourront peut-être être bons, mais quand même décevant par rapport à ce que nous, les experts en finance, nous attendons, parce qu'on voit vraiment qu'on est parti dans un emballement général sur certains secteurs technologiques où aujourd'hui on attend beaucoup, 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 et les sociétés auront peut-être envie d'être un tout petit peu plus prudentes, surtout qu'à côté de ça, vous avez une économie qui commence gentiment à ralentir et un consommateur qui est aussi en train de mettre des coups de frein. Donc, on est dans une période qui va être assez délicate à estimer. C'est vrai que pendant 2 mois, il y aura beaucoup moins de volume, les gens seront un peu absents. Mais on va quand même attendre beaucoup de réponses à nos questions pour savoir dans quelle direction on va aller. Mmh. Alors, consolidation cet été, oui, c'est pas là où j'ai le plus peur. Moi, je suis plus inquiet pour la rentrée scolaire.
L'autre horizon qui fait peur, la rentrée scolaire. Bon, les marchés ne doivent pas trop rêver, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'on peut toucher un tout petit mot de Chine pour conclure notre échange ?
Bah, oui, la Chine ce matin a publié ses PMI et c'était en dessous des attentes de nouveau, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi fort que ce qu'on attendait. De nouveau, les attentes, hein. On attendait toujours un peu plus. On attend vraiment ce redémarrage de la Chine qui aujourd'hui ne vient pas assez vite ou ne vient pas assez fort, mais on voit quand même que nous avons des attentes qui sont relativement élevées et là aussi, bah, la Chine est encore un peu en deçà et ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu pour redémarrer, ou en tout cas, pas forcément redémarrer, mais nous satisfaire, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de nous satisfaire par rapport à cette problématique économique ou bien simplement au niveau des performances des sociétés. C'est pas tant la réalité, c'est ce que nous, investisseurs, nous attendons, où on ne peut plus se permettre d'être déçus, parce qu'il faut quand même pas oublier, une fois pour toutes, que là, on est quand même monté de quasiment 25% aux États-Unis sur la base simple et unique que les taux allaient baisser. Et là, aujourd'hui, attention aux déceptions, et la Chine est encore un bon exemple de ce qui peut arriver ce matin.
Bon, on conclut sur une note, comment dire, vue de l'étranger. Vous êtes en Suisse, vous suivez ce qui se passe de notre côté de la frontière. On est encore pendant une semaine au cœur d'un feuilleton politique, hein, je le dis factuellement, puisqu'on aura de certitudes ou des conclusions qu'à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Voyez-vous la situation ?
Alors, moi, je suis très proche de la frontière française et souvent en France. C'est vrai que la vision qu'on peut avoir de ce qui se passe aujourd'hui, c'est passionnant. C'est passionnant parce que, je le disais déjà la semaine dernière, moi, j'ai rendu mon abonnement Netflix. C'est beaucoup plus intéressant de vous regarder, vous, sur BFM. C'est beaucoup plus passionnant ce qui est en train de se passer. Par contre, de l'étranger, ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, c'est un sentiment. On va pas rentrer dans les détails politiques parce que c'est pas mon job. Mais en tous les cas, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'encore une fois, on se rend compte que la France ne va pas voter pour un projet, mais contre un parti. Et que finalement, toutes les projections économiques, tous les projets sociaux qui étaient mis en avant il y a encore 3 jours en arrière, aujourd'hui, c'est oublié parce qu'il faut voter contre. Et sauf erreur, par le passé, à chaque fois, c'est un peu systématique. On n'a pas ce qu'on veut, mais une chose qu'on ne veut pas, c'est le RN. Et à chaque fois, on va voter contre. Et c'est ça qui marque un peu, qui impressionne surtout de ce côté-là. Alors, qui doit passer ? Est-ce que ce sera bien ? C'est clair que si on fait barrage au Rassemblement National, à ce qu'on voit depuis l'étranger, et puis qu'on donne une espèce de politique mélangée avec le reste, je ne sais pas ce qui sera le mieux à la fin. Mais bon, là de nouveau, je ne suis pas commentateur politique, mais c'est vrai que ce qui impressionne le plus pour conclure, c'est qu'on vote surtout contre quelque chose plutôt que pour un projet.
Voilà le regard suisse de Thomas Veillé, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et on peut évidemment vous lire, vous et votre équipe, sur le site investir.ch. Merci, cher Thomas. C'est bientôt la deuxième partie de Tout pour Investir. On va continuer à s'occuper de votre argent, de votre capital, celui que vous êtes en train de construire, celui que vous faites fructifier, en se posant les bonnes questions économiques pour prendre les bonnes décisions d'investissement. On va donc parler immobilier dans la deuxième partie. On va analyser la réaction des professionnels, notamment face aux propositions du RN. On va faire le point IMO avec Arnaud Accard, président d'IMO Direct. Et puis aujourd'hui, on s'intéresse aux petites et moyennes valeurs. Une demi-heure avec deux experts, la gérante Julia Bridget et aussi Eric Lewin. Pour répondre à vos questions, on fera le point sur les tops, sur les downs. On réfléchira aussi aux flux et puis on regardera aussi les OPA à venir qui dynamisent ou pas d'ailleurs ce secteur des petites et moyennes entreprises. Vous avez une question, on aura sans aucun doute des réponses. Vous voulez qu'on analyse une valeur en particulier, vous nous l'écrivez. Deux moyens pour nous joindre, l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou bien vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé. Je vous lis, on est connecté. À tout de suite après la pub.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On est au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours sur BFM Business. On est en direct de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez depuis un autre fuseau horaire ou depuis l'étranger. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier, comme tous les jours. La question de la rénovation énergétique semble être là un des points de blocage du marché. On parle beaucoup de DPE dans cette émission. C'est un problème notamment pour vous, propriétaires bailleurs qui nous écoutent. Écoutez, comment réagissent les professionnels aux différentes propositions des candidats? On va reparler des élections, notamment les propositions du RN. Au décryptage, Arnaud Accard, le président d'Immo Direct. Aujourd'hui, une demi-heure dédiée aux petites et moyennes valeurs. On va s'intéresser à notre CAC mid et small avec deux experts, Julia Bridger de Roland Corporate et puis Eric Lewin des publications Agora. 30 minutes pour faire le point sur la cote, les ups, les downs, mais aussi que faire très concrètement sur les small caps au deuxième semestre. On fera le point sur les OPA aussi. Tout ce qu'il faut savoir sur cette cote petite et moyenne, ce sera dès 11h30, dans moins de 25 minutes. Vous avez des questions, nous aurons des réponses, de moyens pour nous joindre. L'adresse directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé, je vous lis. Vous voulez qu'on décrypte une valeur, en particulier qu'on parle d'une entreprise qui vous intéresse, vous nous écrivez, on tâchera d'être très réactif pendant cette petite demi-heure. Avant cela, nous partons rejoindre Antoine pour faire le point sur notre CAC 40. Cher Antoine, le marché parisien qui reste dans le vert, une note bien positive, mais pas pour autant de soulagement et on reste prudent.
Non, on le dit encore une fois, le marché est en train d'évacuer une partie d'une prime de risque qui s'est installée durablement depuis deux semaines sur les marchés. Et vous voyez, on était en hausse de quasiment 2,5-3% à l'ouverture. Là, on réduit quand même nettement la vapeur, plus 1,43% à 7586 points. Ça commence d'ailleurs à s'affiner du côté des préférences sectorielles. Vu qu'on a un Euronext Tech Leaders qui sous-performe le CAC 40, on est en hausse que de 0,32%. Alors que du côté des autres places européennes, on a du 0,4%. Pour le DAX à Francfort, plus 0,9% pour l'Eurostock 50. Donc encore une fois, Paris surperforme. Il y a un effet positif quand même de tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Enfin, il ne faut pas oublier certains aspects techniques. Hein, on y reviendra dans quelques instants de ce qui se passe sur le marché obligataire. En tout cas, pour le moment, il est clair que ce sont les secteurs qui ont le plus souffert ces deux dernières semaines qui reprennent du poil de la bête. Et très, très nettement, ça se voit notamment avec le secteur bancaire qui est en pointe. Société Générale, plus 4,4%. On est à 22,90. Crédit Agricole, plus 3,9% à 13,24. BNP Paribas, plus 3% à 61,33 €. À noter la bonne performance aussi des secteurs des services aux collectivités qui, eux aussi, ont été attaqués. Un Bouygues qui gagne 3,3% à 30,97 €. Également le BTP, les concessions. Engie gagne 3%, 13,74 €. On avait Olia, plus 2,97 € à 28,75 €. Et puis, on le disait, contre-performance de la techno avec notamment Dassault Systèmes qui recule de 0,57%, moins 0,03% pour ST Micro. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Nexity qui gagne 6,2% à 8,86 € et Casino, plus forte baisse à moins 3,9% 3,43 €. Le CAC donc en hausse d'1,5%, 7591 points, l'euro 1,0766 $. Lorraine.
Antoine, on va le voir, hein, pas de question, enfin on l'a vu plutôt, pas de question de parler de soulagement. Il faut revenir sur le sujet obligataire, ça va être l'objet de votre histoire financière.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Pas de soulagement, le marché obligataire nous le montre. Décryptage, Antoine.
Oui, alors d'ailleurs, c'est très très étonnant ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que la dette française 10 ans s'est énormément tendue ces derniers jours. On a creusé l'écart de taux de manière assez spectaculaire avec l'Allemagne. On est monté au-delà des 80 points de base dernièrement, ce qui était un vrai niveau d'alerte hein, dans le contexte monétaire européen. Maintenant, ce qui se passe ce matin est très intéressant. C'est-à-dire que oui, ça se tend un petit peu du côté de la dette française, et on dépasse à nouveau les 3,3%, 3,32, ce qui correspond à peu près au plus haut qu'on a pu avoir, notamment en fin d'année dernière, où il était encore question de très fortes poussées inflationnistes et d'hésitation sur ce que la BCE allait faire. Et là, ce matin, alors qu'on a une prime de risque qui reste quand même entière sur les marchés, on va le dire en deux mots, les marchés, ils n'ont pas voté ce matin, ils ne se sont pas dit « Ouf, on a une poussée de l'extrême droite ». Ce serait totalement idiot de résumer les choses comme ça. Ils se sont dit « On écarte de la table deux options extrêmes qui sont majorité absolue du Rassemblement National ou très forte poussée du Nouveau Front Populaire et à ce moment-là majorité absolue du NFP. Et ces deux options sont quand même les plus délétères en matière de dérapage budgétaire et de déficit. Donc voilà, on sort ça de la table et c'est ça qui s'est passé. Donc le risque qui reste là, modéré, on va dire, par rapport à tout ce que le marché a vendu hein, ces dernières semaines, on n'a qu'une simple égalisation. Mais vous voyez, les tensions restent fortes et provoquent des déséquilibres. Parce que si ça s'est un tout petit peu tendu sur la dette française 10 ans à 3,32% là en ce moment, ça s'est beaucoup plus ressenti sur la dette allemande, qui monte à 2,57. Mmh. On a gagné 7 points de base par rapport à la clôture de vendredi, même un peu plus, 8 points de base. Donc du coup, l'écart se réduit, mais parce que la dette allemande est en train de se tendre. Et voilà ce qu'explique en fait ce résultat étonnant hein, au lendemain de ce premier tour des législatives, c'est que la prime de risque, la France est en train de la transvaser à l'ensemble de la zone euro. Et ça va être très intéressant à voir parce qu'on est sur des mouvements qui restent éminemment volatiles. On l'a vu aussi, la tendance peut changer radicalement à la mi-journée avec l'entrée sur le marché des investisseurs américains. Mais on a cette prime de risque qui reste présente sur le marché français. Pour l'instant, elle ne s'aggrave pas trop. Elle provoque même des réalignements sur l'ensemble des valeurs qui ont été vendues de manière peut-être un peu excessive la semaine dernière. Mais voilà, on reste sur une forme de statu quo, de situation équilibrée, de manière très très instable, mais qui va être très intéressante à suivre, avec notamment les considérations en termes de désistement et de réinscription pour le deuxième tour de tous les candidats. Ce sera mardi soir.
Et oui, parce que ce que le marché craignait le plus, c'était une majorité absolue hein, d'un côté ou de l'autre. Et ce scénario n'est pas encore écarté, mais il n'est pas déjà écrit. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage. On vous retrouve avec vous pour faire le point sur les marchés dans une cinquantaine de minutes. Votre histoire financière est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Voilà, l'obligataire, la prime de risque est toujours bien présente. Il est temps de parler immobilier, car oui, parce que ces élections vont avoir un impact sur le secteur immobilier. À suivre.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO, elle est centrale dans cette émission. Elle est centrale dans vos préoccupations d'investisseurs ou de wannabe investisseurs. Et ce matin, pour décrypter, notre paysage économique et politique, c'est Arnaud Accard qui est avec moi. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Président d'IMO Direct. Oui, Marie Cœur de Roy est absente, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous parlons quand même IMO sans Marie, qu'on salue si elle nous regarde. Elle sera de retour dès demain. Bon, on va parler politique, de manière économiquement pragmatique avec vous, Arnaud. On va revenir sur la dissolution qui, évidemment, a provoqué un séisme, mais un séisme qui a de nombreuses répercussions sur l'économie au sein des entreprises et en particulier dans ce qui vous occupe, l'immobilier. Ouais. Votre regard, puisqu'il faut prendre un peu de, recul sur les informations chaudes.
Tout à fait. Écoutez, c'est vrai que ça a été un tsunami. On avait vraiment, vraiment besoin de stabilité. Hein. Ça fait 2 ans qu'il y a une crise très profonde, enfin qui est même un peu plus lointaine, mais 2 ans qu'on la voit vraiment, une crise très profonde de l'immobilier. Et c'est vrai qu'on avait besoin de tout, sauf d'une incertitude. Et malheureusement, actuellement, et encore pour une semaine, on ne sait pas trop où on va. Et même après, on n'est pas certain qu'on le sache également. Voilà, donc c'est vrai que dans ce moment où les jeunes actifs, les gens en mobilité professionnelle, les familles qui s'agrandissent, eh bien aujourd'hui n'arrivent plus à soit à acheter un logement, soit à trouver un logement sur le marché. Hein. On a sorti pas mal d'études, on a des chiffres qui sont quand même vraiment impactants pour les locataires.
Un chiffre. Si vous deviez en sortir un de tout ce que vous avez crunché,
C'est entre 2022 et 2024 plus 300% de dossiers de location dans les zones tendues. Donc, c'est-à-dire que quand on avait 10 dossiers de location sur une annonce, aujourd'hui, on en a 30. Donc, 30 dossiers de location. Forcément, à la fin, il y a un élu, ça fait 29 déçus. C'est dur.
Ça donne le là.
Ouais, tout à fait, ouais.
Bon, on va continuer à parler d'inquiétude, malheureusement, parce que les acteurs de l'immobilier sont soucieux. Je dirais tous les acteurs. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'état d'esprit dans lequel vous travaillez, peut-être rappelez-nouls ce que fait Immo Direct et voilà, nous donner le pouls un peu de votre quotidien et de ceux de vos partenaires professionnels.
Nous, Immo Direct, on est vraiment spécialisé sur la gestion locative et on a lancé également une spécialisation sur la rénovation énergétique qui est quand même également le cœur de la problématique de l'immobilier. C'est ce que j'expliquais sur la gestion locative. On a vraiment besoin que les futurs gouvernants, parce que vraisemblablement on va avoir un énième ministre du logement si on en a un, parce qu'il y a eu des époques où on n'en avait même pas. Donc là, il y en avait un. Bon, voilà, vraisemblablement, il va changer. Une fois de plus, nous, ce dont on a besoin, enfin, nous, professionnels, mais également les locataires et bien évidemment les bailleurs, on a besoin d'une ligne directrice, d'une politique qui va, on l'espère, tenir au moins 3 ans, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines grandes élections. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous. C'est vrai que là, depuis 2 ans, tout change tout le temps, quoi. Donc, c'est épuisant.
Tout change tout le temps. Mais la bonne nouvelle, si je peux en voir une, c'est que le logement est au cœur des propositions de programme.
Alors,
les acteurs se sont beaucoup plaints, évidemment, de l'absence de ministre pendant quelques mois, le flottement, le flou, etc. Mais là, au moins, c'est
Il y a même eu un mea culpa de notre ministre de l'économie sur le logement. C'est vrai que, heureusement, dans les programmes, on a l'impression que le logement a été pris en compte. Je ne vais pas faire de politique, bien évidemment, aujourd'hui. Je cite juste 2 exemples. Ouais. Le nouveau Front populaire. Bon, moi, ils ont une mesure, la généralisation du prêt à taux zéro pour tous les jeunes actifs. On peut se dire que c'est une bonne mesure. Voilà, j'espère qu'elle sera reprise d'ailleurs par si c'est pas eux qui passent au pouvoir. Mais à l'inverse, que des gens puissent remettre en cause la loi du ministre actuel, hein, Kasbarian, sur abroger cette loi anti-squatteur, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on manque cruellement de logements à louer. Comment voulez-vous aller rassurer des propriétaires bailleurs en disant bah c'est pas grave, demain on pourra squatter vos logements. Et puis une deuxième mesure qu'ils annoncent, c'est plus d'expulsion sans proposition de relogement. C'est-à-dire que là, ça devient quand même un peu simple, quoi. On paye plus son loyer et puis, bon, il se passe rien jusqu'à ce qu'on sache là où on va réhabiter. Donc non, ça, c'est pas possible. Et ça, sont des signaux vraiment dangereux pour l'avenir de la location immobilière.
C'est-à-dire que pour vous, l'argument avancé que ce sont les multipropriétaires qui peuvent, grâce à cette loi, mettre tout simplement les gens dehors, c'est faux.
C'est totalement faux, hein. On sait qu'un tiers environ des propriétaires bailleurs sont des retraités. Donc les revenus des loyers, ils n'ont plus d'emprunt et les revenus des loyers viennent compléter leur retraite. Voire composer l'essentiel de leur retraite. Et puis tous les autres, c'est-à-dire les autres 2/3 en haut, ils ont un emprunt. Juste un exemple, on a sorti un produit récemment qui s'appelle la garantie totale des loyers, c'est-à-dire que tous les 15 du mois, nos propriétaires bailleurs qui le souhaitent sont assurés d'avoir leur revenu. C'est-à-dire qu'on va aller anticiper des assurances loyers impayées, on fait un carton.
Vous êtes un réassureur,
On fait un carton. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, bailleurs, ont besoin de cet argent pour payer les charges, payer les emprunts, etc., etc.
Mais au-delà de l'argent, en fait, ils ont besoin de, comme on dit, de réassurance.
Oui, c'est sûr que c'est ce que je dis depuis le début de mon intervention. Il faut maintenant qu'on ait un cap, un vrai cap. Alors, il sera plus à gauche, plus à droite, mais au moins, il nous faut un vrai cap.
Comme dirait Tony Blair, l'important, c'est pas d'être de droite ou de gauche, c'est d'être efficace, c'est que ça marche, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Bon, on va revenir quand même sur la rénovation énergétique. Vous nous disiez que ça vous occupait chez Immo Direct. Ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, c'est un des points de blocage qui permet beaucoup de débats complètement hors sol dans le cadre de cette élection législative. Est-ce qu'on peut, revenir sur la proposition faite par le RN de, je vais le dire très simplement, faire sauter le DPE, hein ? Comment le prennent les propriétaires bailleurs d'une part, et de l'autre, comment le prennent les professionnels, les professionnels au pluriel, voilà, et en particulier peut-être ceux comme vous qui sont occupés à cette rénovation énergétique.
Je ne pense pas que c'est faire sauter le DPE, mais c'est au moins
décaler
les interdictions de louer. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Il faut de l'assouplissement. Moi, je plaide pour ça, parce que de toute façon, on a tous pris de retard, et je vais cibler un des acteurs de tout ce marché qui n'est pas au rendez-vous et qui sont les banques. On va y revenir jusque-là. Mais c'est vrai que cette rénovation énergétique, elle est intéressante pour tout le monde. un locataire, il va payer moins de factures d'énergie, enfin, il va moins consommer d'énergie, pardon, donc diminuer sa facture. Le propriétaire, il va valoriser son bien dans le temps. Les professionnels, bah, finalement, c'est du business pour tout le monde. Il y a des artisans, donc l'État, même si c'est une petite TVA, ça fait toujours de la TVA, ça fait de l'emploi, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, la rénovation énergétique dans ce monde du logement, ça peut être un vrai poumon pour relancer toute cette dynamique du logement. Donc il faut vraisemblablement assouplir. Il y a déjà très peu de logements. On ne va pas pouvoir interdire au 1er janvier 2025 laisser des appartements vides. Mais par contre, il faut mettre une petite contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des offres. Nous, en l'occurrence, on en a une, hein, où on a une garantie de résultat pour gagner 2 lettres pour tous les bailleurs, par exemple, qui seront engagés avant le 31-12-2024 et leur laisser 31 décembre 2024, leur laisser 12 mois de répit, par exemple. Mais ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le financement du reste à charge. Les propriétaires, nous, 80% des propriétaires qu'on a en ligne, et on en a beaucoup tous les jours, ils veulent rénover. Ils en sont conscients. Ils savent que s'ils ne rénovent pas et qu'ils laissent leur logement en G, le logement va devenir, entre guillemets, un peu à la marge. Donc, ils veulent rénover.
Bah, même rénover, va leur coûter de l'argent, en fait.
Ça va leur coûter, mais ils n'ont pas le reste à charge. L'État fait un effort avec MaPrimeRénov, avec des certificats CE, etc. Mais il reste forcément un reste à charge. Mmh. Et le problème, nous, qu'on a aujourd'hui, j'ai fait le tour de toutes les banques. Il y en a. Alors, tout le monde dit, on va verdir notre bilan, on a des offres, etc. Mais dans le concret, il n'y a pas d'offres pour le financer, le reste à charge. Surtout qu'on est sur un domaine où on pourrait garantir le bon remboursement de ce reste à charge par les loyers. Vous voyez, donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut, le prochain gouvernement doit vraiment mettre la pression sur les banques pour prêter ce financement du reste à charge.
Mais pour que les gouvernements mettent la pression sur les banques, encore faudrait-il que ce chantier de la rénovation énergétique reste un horizon.
Il va rester un horizon. On ne peut pas revenir en arrière. Le DPE ne va pas disparaître. Vous, Lorraine, vous voulez louer un logement, c'est ce que je dis à tout le monde. Vous allez cocher G sur le site Se Loger, Le Bon Coin, sans les citer.
Bah, si ça coûtait moins cher, peut-être que certains de ceux et celles qui nous écoutent.
Ah oui, alors ça va. Si ça coûte moins cher, mais à ce moment-là, le bailleur, lui, il n'a aucun intérêt à louer son logement moins cher. Donc c'est une question d'économie. Mais il y a aussi une qualité de vie à l'intérieur de logements rénovés. Hein. Ça, c'est indéniable. Donc, moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Enfin, puis, il y a quand même la problématique au-dessus de tout ça, c'est quand même la problématique écologique du réchauffement climatique qui est on ne peut pas ignorer. Et donc, il faut qu'on continue. Et on va continuer dans ce sens-là. J'en suis persuadé. Mais je vous dis, moi, aujourd'hui, tout le monde veut rénover. Le seul problème, qui n'est pas un petit problème, mais c'est le reste à charge, le financement du reste à charge. On a fait des études sur 36 mois. Financer un reste à charge, c'est entre 20 et 30% du loyer. Eh bien, les propriétaires bailleurs, la plupart, pourrait faire cet effort parce qu'en plus en ayant un logement qui va gagner en étiquette énergétique, comme vous l'avez très bien dit, ils vont pouvoir le louer un peu plus cher. Mais tout le monde va s'y retrouver à la fin du compte.
Dites-moi, pareil, dans un souci de chiffrer et déchiffrer l'économie, y compris l'économie du secteur immobilier, si vous pouviez partager un chiffre sur ce chantier de la rénovation énergétique qui vous semble parlant, Arnaud, qu'est-ce que vous nous diriez?
Un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dépenser 100% de MaPrimeRénov. Moi, ça me désespère. Donc, c'est vrai qu'il y a des dans les programmes, par exemple, du camp actuel, une taxe pour sur les rachats d'actions dans les entreprises, en se disant comme ça, avec cette taxe, on va pouvoir rénover 300 000 logements de plus. Ça part d'une bonne intention. Enfin, c'est encore une taxe en plus. Mais déjà, dépensons MaPrimeRénov sans changer les règles du jeu tous les jours. Encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, il y a 2 changements au 1er juillet sur MaPrimeRénov n'est
lesquels
plus éligible.
Parce que c'est demain le 2 juillet. Le 1er juillet, c'est aujourd'hui, pardon.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut retenir des 2 changements imminents?
Il y en a un, c'est MaPrimeRénov n'est plus éligible pour un changement, une rénovation monogeste. Donc, on pouvait en profiter jusqu'au 30 juin. Et vous savez, il y a la fameuse, le nouvel algorithme du DPE sur les surfaces en dessous de 40 mètres carrés qui rentre vraiment en vigueur aujourd'hui. Voilà, ça change tout le temps. Donc, il faut un cadre, il faut une vision et avec tout ça, on va pouvoir rénover le parc de logements français et surtout inciter des nouveaux investisseurs à aller sur ce métier, sur ce marché. C'est ça qui est extrêmement important pour tous les Français.
Les banques aussi que vous appelez à se mobiliser, à travailler aussi sur des offres qui rendraient aussi cette rénovation énergétique plus concrète, plus facile pour les particuliers. Un mot pour conclure sur les pros, sur les auditeurs B2B, peut-être vous, professionnels du logement, quelles sont les attentes? Comment pouvez-vous résumer ce qu'attendent et ce dont ils ont besoin ces professionnels du logement, Arnaud?
Ouais, en deux mots, comme vous me le demandez, dans le domaine de la transaction, il faut libérer les énergies. Donc, première chose à faire, il faut supprimer ce HCSF qui bloque des tas d'accès au crédit de gens qui ont tout à fait le reste à charge.
HCSF, voilà, qui décide du pourcentage auquel vous pouvez vous endetter.
Ça, il faut le supprimer. Moi, je suis un fervent partisan de supprimer l'IFI aussi, bien évidemment, parce que, investir dans l'immobilier pour loger des Français, c'est plutôt quelque chose qui amène de la valeur. Donc ça, c'est pour le côté de la transaction. Je pense que si on fait ça, on va redonner envie. Alors après, il y a plein d'autres éléments, mais les deux premiers, c'est ceux-là qui me viennent à l'esprit. Et puis au niveau de la gestion locative, de l'investissement locatif, effectivement assouplir ces interdictions de louer, mais avec quelques contraintes pour garder cette dynamique. Moi, je pense qu'il est temps de faire un fichier des mauvais payeurs. On sort aussi des statistiques régulières. Alors oui, il y a des escrocs. Il faut vraiment arriver à les éliminer. Après, il y a des gens qui ont des problématiques de vie, etc. Donc eux, il existe des règles pour. Enfin, il faudra mettre des règles pour les remettre ou les sortir de ce fichier. Mais il faut un fichier des mauvais payeurs. On peut pas laisser des gens comme ça, des professionnels du non-paiement du loyer. C'est pas possible. Enfin, nous concernant, nous, professionnels, il faut qu'on réévalue. Nous, par exemple, quand on fait de la location, on a des montants de frais de location qui sont figés depuis 2014. 10 ans. 10 ans qu'on facture les mêmes tarifs à la location. Donc,
Vous êtes rentable chez Immodirect?
De moins en moins. De moins en moins. Et à l'inverse, moi, je prône pour finalement rendre obligatoire cette location via des professionnels, parce qu'aujourd'hui, il y a un risque majeur, même pour le particulier qui ne fait pas attention, mais un particulier qui poste une annonce sur un site, il reçoit des dossiers, il reçoit des pièces d'identité, des avis d'imposition.
Il y a un gros sujet de confidentialité, oui.
Non, mais à l'heure où on parle du RGPD partout, nous, tous les jours, on a des candidats locataires, à juste titre, qui nous écrivent « Merci de me confirmer que vous avez bien supprimé toutes mes données, etc. Ouais. » Donc, nous, tout est industrialisé, donc c'est fait. Mais dans 60 à 65% des cas, la location est faite par les propriétaires en direct. Vous imaginez, vous, votre pièce d'identité, où est-ce qu'elle arrive?
Absolument.
Si la deux cas, soit c'est un escroc et à ce moment-là, il va directement utiliser votre pièce d'identité, soit c'est pas un escroc mais il se fait pirater sa messagerie et votre pièce d'identité, vous savez pas où elle atterrit. Donc, il faut qu'on professionnalise ce métier et bien évidemment, ça amènera du business à tout le monde.
Sujet RGPD intéressant, impromptu dans cette discussion, mais intéressant évidemment, ouais. La voix aussi des professionnels pour automatiser, sécuriser ce secteur de l'immobilier, les échanges entre les particuliers et les particuliers. Et quelques idées. Merci beaucoup pour ce brainstorm, pour cette réflexion. Arnaud Accard, président d'Immodirect, d'avoir avec nous pris le pouls du secteur des professionnels. Voilà le recul qu'on peut avoir dans cette période encore d'incertitude par rapport à la future politique économique du logement et de l'immobilier en France. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous restez avec nous, on marque une rapide publicité et après on s'occupe d'une petite cote, de la moyenne cote. On va parler des petites et moyennes entreprises françaises, celles qui sont cotées. Comment se portent-elles? Les regarder au deuxième semestre? Quel bilan tirer évidemment du premier? Deux experts avec nous pour prendre le pouls là encore et réfléchir à comment faire travailler votre argent au service de l'économie réelle. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Nos experts réunis pour répondre à vos questions. On joue le jeu du direct aujourd'hui dans Tout pour investir. Nous allons nous concentrer sur la cote moyenne et petite. On va parler du CAC mid et small. Pendant plus de 25 minutes, on est en direct. Vous avez des questions, nous aurons des réponses. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Vous m'écrivez comme Adèle et Victorien qui m'ont déjà écrit. Deux experts autour de cette table. On va commencer par vous, Julia Bridger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée chez Euroland Corporate avec nous pour poser votre regard sur cette cote. Et bien sûr, comment parler des mid et small sans vous, Eric Lewin. Bonjour Eric.
Bonjour ma chère Lorraine.
En chair et en os sur ce plateau. Incroyable.
Pour une fois, pour une fois.
Rédacteur une fois en chef des publications Agora avec nous usuellement le mardi. D'ailleurs, vous serez avec nous aussi demain pour le journal des mid-cap. Aujourd'hui, c'est plus qu'un journal. C'est un zoom, un concentré. Une petite question politique, évidemment, pour démarrer. On est en direct. Nous sommes le 1er juillet pour vous qui nous suivez, évidemment, à la radio, à la télé, sur le web. Et puis, pour vous qui nous écoutez en podcast ou en replay de manière délinéarisée, on voudrait avoir votre regard à chaud, Eric, sur l'impact de l'instabilité politique sur nos petites et moyennes entreprises.
Mais écoutez, l'impact est ultra positif aujourd'hui, puisque le CAC Small regagne, à l'heure où je vous parle, 4%. On avait perdu 15% en l'espace d'un mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui fait très peur aux investisseurs. C'était bien sûr le programme du front de gauche qui était extrêmement mauvais, non seulement pour les small, mais également pour l'économie française, avec une dérive budgétaire et sans doute une forte inflation. Le programme du RN n'est pas exceptionnel non plus, avec notamment une augmentation des bas salaires qui pourrait faire perdre des parts de marché à nos PME. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme on se rend compte que la majorité absolue sera quand même difficile à l'heure où je vous parle, parce que c'est vrai que les candidatures, je crois que c'est demain soir qu'on aura les candidatures définitives pour le second tour, comme la majorité absolue apparaît difficile pour le RN, eh bien, finalement, en général, la bourse déteste l'incertitude. Là, on a l'impression que la bourse adore l'incertitude. Elle ne veut pas de majorité absolue, ni très à droite, ni très à gauche, et donc elle se satisfait un petit peu d'une espèce de majorité relative où on se dit que peut-être, si c'est le RN qui l'emporte, et c'est le RN sans doute qui va l'emporter, il y aura des accords de circonstances avec certains LR qui feront qu'il y aura peut-être un gouvernement d'expertise, et donc c'est la moins pire des choses. Et donc...
Gouvernement d'expertise, manière de dire qu'on aurait un gouvernement de techniciens.
On peut avoir un gouvernement de techniciens, comme on avait eu à l'époque Macron avec Castex, qui n'était pas un politique, mais plutôt un technicien. Mm-hmm. Alors sur les small, juste un mot, j'ai pas envie de piquer toutes les données à Julia, qui me regarde avec effarement et avec effroi, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que le CAC Small avait quand même perdu 15% en l'espace d'un mois. On était plutôt très bien parti, puisque fin mai, on avait fait une chronique ensemble. Je vous disais que le CAC Small était nettement en avance. Je crois qu'on était à plus 7, plus 8 depuis le début de l'année. Là, on doit être à moins 3, moins 4. Donc, ça fait du bien. Attention quand même, parce que sur les taux, ce matin, on était à 3,27. Là, on remonte actuellement à 3,32, 3,33. Je suis pas sûr qu'on monte vraiment en ligne droite là. Et je pense que je le dis tout le temps, je l'ai dit partout, je pense que jusqu'au lundi 8, il ne faut rien faire sur les marchés et ne pas tenter quoi que ce soit. Même si quand on voit du plus 4 ce matin sur le CAC Small, on se dit qu'il faut peut-être y aller, mais non, il ne faut rien faire, ma chère Lorraine.
Pour les marchés ce matin, c'est la victoire du scénario du moins pire. Je cite évidemment John Plassard pour Mirabeau qui résume ce que vous nous dites, Eric, c'est que le marché, ce qu'il craignait, c'était une majorité absolue d'ores et déjà là à l'issue du premier tour de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Julie, avez-vous un regard sur cette situation ?
Oui, en tout cas sur les small, pour parler plus précisément des small, c'est vrai que la dissolution a été un coup d'arrêt sur la remontée des marchés, parce qu'on avait eu un mois de mai très positif. Ce qu'on a pu constater sur ce marché, c'est surtout un arrêt des liquidités. C'est vrai que le marché avait redémarré, puisque les gérants et tous les fonds de la catégorie small mid-cap avaient réussi à recollecter de manière assez significative, contrairement aux 5 dernières années. Et là, en 3 semaines, ils ont re-eu de la décollecte de manière massive, ce qui a entraîné des flux vendeurs assez significatifs et donc une chute comme un mini-crack avec moins 15% en 3 semaines. Donc on va être très attentif pour voir dans les prochaines semaines si cette instabilité, ou en tout cas cet attentisme, va permettre de refaire de la collecte auprès de ces fonds small mid-cap qui va permettre de pouvoir rejouer cette classe d'actifs.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter le bilan non seulement des dernières semaines mais peut-être aussi du premier semestre, puisque nous sommes le 1er juillet? Premier semestre derrière nous. Eric, que faut-il retenir ?
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une forte décote en termes de valorisation entre les small et les mid. et les small et le CAC 40 de l'ordre de 25 à 30%. Mais sinon, ce que je retiens, moi, c'est toutes les OPA qui ont été très nombreuses au cours du premier semestre avec des primes entre 35 et 40%. Je chausse mes lunettes parce qu'à mon âge, on porte des lunettes pour lire. Et je peux vous dire qu'on a eu OPA sur Belive, sur Micropole, sur Neoen, sur Esmosis, Ores Technologies, Clasquin, Visiative. Il y a beaucoup d'opérations financières. Neoen, il y a beaucoup de sociétés. Il y a beaucoup de sociétés qui sortent de la cote parce qu'ils se rendent compte que dans le monde du private equity, on le dit chaque semaine, elles sont mieux valorisées. Mmh. Mais d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que comme les primes sont importantes, ça me fait dire que même s'il n'y a pas une performance exceptionnelle sur le premier semestre, au moins, quand il y a des primes, les actionnaires sortent en fait entre 30 et 40%. À noter, mais Julia connaît ça bien mieux que moi, qu'il y a eu simplement deux OPA, Planisphère et Exosens.
IPO.
Deux IPO, Planisphère et Exosens sur les marchés avec des levées de fonds en tout de 700 millions d'euros. Mais là, c'était sans les particuliers, puisque maintenant il y a une directive qui fait qu'on peut se passer les particuliers lors des opérations financières. C'est bien peu. Moi, je me rappelle qu'en 2006, 2007, 2008, il y avait en moyenne 40 IPO par an. Là, on en a seulement deux, donc c'est vraiment une tristesse et on a le sentiment que ça pourrait repartir sur le second semestre, à condition que toutes les conditions économiques soient enclenchées, c'est-à-dire un gouvernement stable, des investisseurs qui reviennent, parce que j'ai oublié de le dire, mais je crois que jeudi, il y a une adjudication sur la dette française qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention.
Ces entrées en bourse, ces IPO, merci pour la correction du lapsus, intéressant d'Eric, entre IPO et OPA.
Il y en a tellement peu que je parle d'OPA tout le temps.
Tristesse, voilà, des IPO, pour compléter le portrait de ce premier semestre sur la cote moyenne et petite. Julia, qu'est-ce que vous ajouteriez ?
Non, effectivement, le phénomène du premier semestre, ce sont les OPA. Ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Eric, c'est que ce semestre, qui est intéressant, c'est que les OPA proviennent essentiellement d'industriels. Donc, ce sont les industriels qui sont venus faire leur course sur le marché financier, alors que les années précédentes, on était plutôt sur des fonds de private equity avec des relutions des managers. Là, ce sont les industriels qui ont fait leur course. Pourquoi ça a été permis aussi ? Puisque les conditions de crédit ont pu permettre à ces groupes de faire des financements et de racheter ces sociétés. Donc là, c'est vrai que ça va être intéressant de voir si sur le deuxième semestre, il va y avoir cette frilosité compte tenu du contexte en tout cas instable. Ce qu'on entend en tout cas depuis la dissolution, de par tous les avocats de M&A et de toutes les banques d'affaires, c'est que tous les process sont en suspens. Le lendemain de la dissolution, toutes les opérations de rachat, de cession ont été mises en suspens, soit parce que les financements sont compliqués, soit parce qu'évidemment les acquéreurs attendent de voir quels vont être les impacts sur la valorisation, sur les perspectives des sociétés qu'elles souhaitent racheter. Donc ça, c'était un élément important.
Voilà, le point sur les OPA et les IPO. On va continuer à parler de cette thématique avec vous deux. Eric, vous êtes friand de ce genre de format. Les up, les down, ceux qui sont au top, ceux qui sont au fond du seau. Si on doit porter rapidement, faire un top, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Alors, il y a deux boîtes que j'ai sélectionnées dans les up. C'est Arcur. Qu'est-ce qu'ils font ? Une technologie de détection de piétons dans les sites industriels. Chiffre d'affaires plus 40%, marge brute à 40%, méga contrat avec ArcelorMittal, plus 95% sur le semestre. C'était la bonne surprise. C'était une boîte qui était complètement délaissée. Et puis je surveille aussi Gerbet, plus 80%. C'est des produits de contraste pour la radiologie. Ils avaient été génériqués, c'est-à-dire que leurs produits vedettes avaient été était tombé dans le domaine public, donc ils avaient perdu beaucoup de parts de marché. Il y a un nouveau produit qui marche très bien, c'est l'Elucirem. Bon, je vais pas revenir sur cette histoire médicale, mais disons qu'ils ont un pricing power parce qu'il y a eu une augmentation du prix de l'iode l'an dernier qu'ils ont réussi à répercuter sur leurs clients. Et donc, ce sont les deux bonnes nouvelles du semestre. Deux dossiers d'ailleurs sur lesquels on peut continuer à être positif. Et du côté des mauvaises nouvelles, c'est toutes les boîtes à OCAPSA. Vous savez, les financements ultra dilutifs, c'est un truc que je déteste. Je m'énerve chaque fois sur tous les plateaux télé possibles et inimaginables. Vous avez Neovax, moins 99%. Vous avez du Pharnex, moins 99%. Vous avez du Cybergun, moins 98%. Je dis dans le blanc des yeux à nos amis auditeurs, téléspectateurs, n'allez pas sur ces dossiers horribles. Je répète une dernière fois, je ne comprends pas pourquoi l'AMF ne légifère pas et n'interdit pas ces produits qui sont ultra dilutifs et qui provoquent la ruine des actionnaires. Pourquoi ? Parce que dans ce cas de figure, souvent, vous avez un PDG qui a un salaire entre 500 000 et 1 million d'euros. Sa boîte ne marche pas, mais lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est qu'il garde son salaire important. Il n'est pas actionnaire et donc il dilue. Et c'est la ruine des actionnaires. Et puis un deuxième dossier, ça me fait un peu de peine parce que j'aimais beaucoup le patron, c'est Valbiotis. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Alors c'est des espèces de compléments alimentaires pour lutter, cholestérol, diabète, etc. La boîte perd 77% en un semestre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un gros contrat avec Nestlé Health Science. Moi, j'étais sûr, j'aurais mis ma main au feu, qu'ils allaient être rachetés par Nestlé Health Science, eh bien, patatras, il y a deux mois, ils annoncent que Nestlé Health Science a une autre idée de diversification et donc arrête le contrat. Le titre perd 77%. Et la grande problématique de Valbioti, c'est que les produits sont intéressants. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus qu'un an de cash dans les caisses. Donc, ça vaut un 17. Donc, je suis un peu inquiet sur cette société. Mais c'est dommage que le patron de la boîte, Sébastien Pelletier, franchement, c'est un mec bien. Mais je pense qu'il n'a pas eu de chance. Vous voyez, il y a des patrons qui sont des menteurs et des salopards qui racontent n'importe quoi sur leur société. Lui, franchement, il n'a pas eu de chance. C'est dommage. Donc, Valbiotis, c'est mon dernier down de ce semestre.
Eric Lewin qui regarde les patrons et les auditeurs au blanc des yeux et puis qui vous parle aussi à vous, auditeurs, dans le creux de l'oreille, n'est-ce pas? Cher Julia, est-ce que vous avez aussi un top que vous voulez partager avec nous, peut-être plus sur des smalls?
Oui, sur des small ou mid. C'est vrai qu'il y a une société qu'on apprécie beaucoup chez Euroland Corporate, c'est la société LDC. LDC, c'est le spécialiste traiteur et de la volaille qui a surperformé très fortement son marché, qui ensuite, en plus s'est remis à la chasse aux acquisitions puisqu'ils ont annoncé dernièrement des acquisitions, notamment sur leur activité traiteur. Et puis, c'est une activité très internationale. Alors, dans le contexte actuel où on sait que les gérants vont essayer de se focaliser sur les sociétés dont l'activité en France est minoritaire, oui. LDC fait partie de ces sociétés qui exportent beaucoup, qui ont des filiales à l'étranger et qui sont donc peut-être un peu moins soumis à l'instabilité politique en France.
Côté down.
Côté down, j'en ai pas préparé.
Voilà. C'est pas le café du commerce.
Non, parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de baisses de sociétés ces dernières semaines depuis la dissolution. Donc voilà, c'est important de voir un peu les publications semestrielles.
Elle est que positive, Julia. Elle regarde que le côté toujours positif. Non, mais c'est bien. Attendez.
Il en faut dans ce contexte. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, on a parlé de Neoen, de Believe rapidement, d'Ores. Qu'est-ce qu'on peut dire en détail sur quelques dossiers qui intéressent sans aucun doute nos auditeurs, nos auditeurs.
Sur les anciennes OPA, vous voulez dire ? Non, le dossier marquant de ce premier semestre, c'est Micropole, spécialiste de la business intelligente, business intelligence avec de la data. Le cours se traînait à 1,10€, 1,15€. Il y a l'ancien patron de Valtech qui fait une OPA à 1,50, puis les titres ne cessent de monter. On a Aubay qui prend 2%, et finalement, il y a Talent qui fait une opération financière à 3,12. Hein, je vous rappelle que l'action était deux mois avant à 1,10€, donc on fait un x3 quasiment sur ce dossier. Et moi, ça me fait dire quoi ? Ça me fait dire que ce qui est intéressant dans notre compartiment, dans le monde des micros et des small caps, je parle des boîtes qui valent en dessous de 200 millions d'euros, comme elles sont peu connues, suivies par quelques analystes de type Julia chez Roland, enfin qui n'est pas analyste mais qui suit très près tous ces dossiers, il y a souvent des très bonnes surprises avec de forts effets de levier, ce qu'on n'a pas dans le monde des grosses capitalisations où quand vous avez une opération financière, je ne dis pas qu'elle est connue de tout le monde, mais il y a une prime de 15%, de 17%, c'est compliqué, on paye en papier. Là, c'est pas du tout le cas dans le monde des small et mid, ce qui me fait dire que sur ce second semestre, juste un peu de prospective, je pense que les opérations financières vont continuer dans ce monde des small et mid avec des patrons qui souvent dans certains secteurs, je pense notamment au secteur informatique, ont largement dépassé la soixantaine, donc seraient peut-être tentés de vendre leur société. Et puis quand ils voient le monde du private equity, le monde du non-coté, où vous valez entre 25 et 30% plus cher, sans toutes les contraintes réglementaires, sans toutes les contraintes liées à la communication financière, sans ces obligations de publication de résultats, vous dites que vous êtes mieux dans le domaine du non-coté. Donc pour moi, l'ES2, ça va rester un semestre où il va y avoir encore beaucoup, beaucoup d'opérations financières. Reste à savoir si ça sera contrebalancé par des IPO. Julia est mieux placée que moi pour parler des futures IPO parce que j'ai pas tellement de visibilité. Espérons qu'il y en ait parce que c'est vrai que la cote quand même depuis 15 ans s'appauvrit vraiment.
Julia, on a beaucoup parlé dans cette émission depuis le mois de septembre de la compétition pas forcément toujours très bien verbalisée entre le private equity et la cote qui nous occupe aujourd'hui. Votre regard sur cette compétition, et avant ça, est-ce qu'on peut revenir, comme Eric vient de le faire, sur une OPA ou deux qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont occupé? Vous reveniez sur Neoen, qu'on ne peut pas ne pas
citer. Oui, Neoen, elle a été significative parce que c'est dans un secteur aussi qui a été très prisé ces dernières années, puis c'est une IPO finalement assez récente, donc en fait c'était intéressant de voir que la société a pu sortir de cote assez récemment après son introduction en bourse. Micropole est important parce que c'était la première OPA hostile. Alors sur les small caps, on a tendance à dire que c'est très compliqué de faire des opérations hostiles parce que souvent le management contrôle le capital. Là, on a vu que malgré le fait que les dirigeants avaient 21% des droits de vote, il y a pu avoir une OPA hostile qui s'est bien finie pour eux parce qu'ils ont été chercher eux-mêmes l'acquéreur avec une grosse prime. Et puis on a pu voir des sociétés plus petites comme Osmosis qui sont des sociétés effectivement qui étaient dans le wifi dans le camping avec des dirigeants qui ont eu 60 ans et là on arrive effectivement à une sortie pour se projeter parce que les dirigeants arrivés à 60 ans avaient envie de se projeter ailleurs et donc ont vendu à un groupe industriel qui est le groupe Passman à Lyon qui est lui-même financé par des fonds de private equity. Maintenant les IPO, c'est clair que déjà sur le premier semestre on a eu quand même très très peu d'opérations financières. Il faut voir sur les small et mid cap, les opérations de levée de fonds ont été très peu significatives. Lorsqu'elles ont eu lieu, c'est souvent elles ont fait l'objet de garanties auprès d'un certain type d'investisseurs, c'est-à-dire que les investisseurs qui s'engageaient à souscrire à ces opérations percevaient une rémunération. Alors là, c'est quand même assez rare parce que généralement on ne paye pas des investisseurs pour souscrire à une opération, mais vu le contexte qui était extrêmement difficile pour ces sociétés, elles étaient obligées pour lever des fonds de payer certains investisseurs entre 5 et 7% du montant qu'elles mettaient pour que l'opération soit un succès. Donc on a observé beaucoup d'opérations de ce type-là au cours du premier semestre, beaucoup d'opérations aussi avec maintien du droit préférentiel de souscription, puisque finalement les sociétés font appel à leurs actionnaires historiques qui les suivent depuis longtemps, notamment les particuliers qui, on sait, sont fidèles dans ces opérations pour souscrire, et on a vu beaucoup moins de placements privés. Le S2 s'annonce aujourd'hui, en tout cas toutes les opérations qui étaient en cours, on nous dit que c'est décalé, que les gens vont attendre septembre pour voir si le marché se stabilise, pour voir si les fonds se permettent de recollecter et de pouvoir investir sur des nouveaux supports tels que des IPO ou des opérations d'augmentation de capital.
Voilà le regard qu'on peut déjà porter sur ce deuxième semestre, en fait, qui va démarrer en septembre.
Oui, vraisemblablement.
On a plusieurs
opérations. Moi, je voudrais juste vous citer quand même
allez-y, Eric.
Certaines OPA qui pourraient avoir lieu. Moi, je pense par exemple à des dossiers comme Itelink, comme Nam Air. Peut-être même une société comme Aubay, qui est une très belle boîte informatique. On cite toujours Infotel dans le secteur informatique. Non, je voulais donner ça pour donner un peu de victuailles à nos amis téléspectateurs pour citer quelques dossiers. Je pense que ça peut sortir, je pense aussi, peut-être dans le monde du e-commerce, LDLC qui a des problèmes de rentabilité mais qui a quand même un chiffre d'affaires très important pourrait intéresser un gros du secteur. Voilà, alors vous allez me dire, toutes les sociétés sont opéables dans le monde des small et mid, mais je crois qu'on peut regarder de près ces 5 sociétés qui pourraient, alors je dis pas au S2, mais il faut quand même peut-être commencer à les regarder parce qu'il pourrait se passer des choses sur ce genre de sociétés.
Un mot sur cet âge symbolique que vous avez évoqué chacun à plusieurs reprises, les 60 ans, beaucoup de patrons et de patronnes peut-être, de ces entreprises de petite et moyenne taille qui sont, pour des indépendants, pour des professions libérales, pas forcément à l'aube de leur retraite, hein, parce qu'à 60 ans, quand on est dirigeant, parfois on est loin de prendre sa retraite si on la prend un jour. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un changement de mentalité, un changement de rapport aussi à la cote, avec une nouvelle génération qui pourrait arriver un petit peu plus jeune, avec des codes peut-être différents, Julia, pour démarrer?
Bon, on l'espère, effectivement. Alors, c'est vrai que l'âge des 60 ans, il est, on l'a constaté ces 10 dernières années, ça s'est rajeuni sur les sorties de cote. Souvent, on pouvait attendre une sortie de cote où les dirigeants restaient impliqués bien plus longtemps. Là, c'est vrai que voilà, on vit plus longtemps. Ils ont envie aussi, souvent, les dirigeants de profiter d'autres choses après avoir consacré beaucoup d'années à leur entreprise. Et c'est vrai aussi que sur les nouvelles introductions en bourse, Eric, tu citais Neymar dans le cadre d'une OPA, mais c'est pour lui une femme qui est la directrice générale, une femme d'une quarantaine d'années. Donc, on a vu des profils de dirigeants plus jeunes et on espère effectivement que les prochaines IPO feront venir à l'instar de ce qu'on peut voir aux États-Unis.
Avec juste un bémol, la grande problématique, c'est par exemple dans le monde de la French Tech où il y a des jeunes, eux, ils préfèrent de très très loin le monde du private equity où encore une fois il n'y a pas du tout de contraintes et où ils peuvent avoir des valorisations nettement supérieures.
Il y a des contraintes quand même.
Oui, il y a des contraintes.
Il y a des contraintes avec les fonds, mais il n'y a pas les contraintes qu'on peut avoir quand on est coté vous savez, quand vous êtes coté, Julia pourra rebondir facilement, vous avez une capitalisation de 50 millions d'euros, c'est très compliqué. Il faut payer un analyste, il faut payer le listing sponsor, il y a la communication, il y a la publication de résultats. Ça coûte quand même quoi, entre 200 et 300 000 euros par an? Vous n'avez pas ça dans le monde du private equity. C'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut avoir.
Après, ce qui est important, voilà, la bourse par rapport au private equity, c'est déjà l'indépendance. Son dirigeant peut se constituer son conseil d'administration et peut s'entourer des personnes avec qui il souhaite. Et puis le private equity, il faut faire attention, quand tout va bien, tout le monde gagne et les alignements d'intérêts sont clairs entre les fonds et les dirigeants. Mais dès que ça ne va pas, là, il y a un désalignement d'intérêts qui est réel entre les dirigeants et les fonds. Et on a pu voir quand même ces dernières années sur toutes les levées de fonds avec les ventures capital, il y a beaucoup de sociétés qui ont été à la casse puisqu'à un moment, les fonds ne pouvaient plus suivre.
Non mais moi, ce n'est pas un plaidoyer, encore une fois, pour le private equity. Moi, je préfère de très très loin les boîtes cotées parce que sinon, je n'ai plus de boulot. Donc, non mais faut être
peut-être
clair.
Que vous aussi, vous y avez
simplement, je dis qu'il y a beaucoup de, dirigeants d'entreprises, notamment jeunes, qui préfèrent rester dans ce monde du private equity, qui les fait plus rêver que dans le monde de la bourse où très souvent il y a des déceptions. Et quand on regarde par exemple sur 5 ans le CAC 40 et quand on regarde le CAC Small, il y a un écart de 40 points. Donc quand vous voyez ça, vous restez dans le private equity. Mais encore une fois, messieurs les présidents d'entreprise, il faut venir en bourse.
Messieurs et dames, s'il vous
messieurs,
plaît,
dames, pardon.
Dans ce monde
être c'est mon côté machiste, c'est pour ça. Oui.
Effectivement, l'indice CAC Mid et Small, croissance, performance à 11% depuis 5 ans, 55% pour le CAC 40. On est en direct, plusieurs auditeurs et auditrices nous suivent avec attention et nous soumettent des valeurs pour passer dans votre radar à tous les deux, Julia et Eric. Victorien nous a écrit en début d'émission, il aimerait votre regard sur Delphingen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait cette entreprise? Peut-être Eric pour démarrer.
Écoutez, alors Julia connaît mieux la société. Alors, parce que je crois qu'il les suit. C'est un équipementier automobile.
Dans l'électrique.
Dans l'électrique, qui est plutôt très bien positionné. Après moi, ma grande inquiétude, et après je laisserai détailler beaucoup plus Julia, c'est que je trouve que c'est assez compliqué la voiture électrique en ce moment. Il y a beaucoup de concurrence. On sent très bien qu'il y a une déflation. On sent très bien qu'il y a des gens comme Tesla qui arrivent en baissant les prix. Et donc c'est vraiment pas un secteur que j'ai envie de jouer en ce moment, même si sur Delphingen, il y a un aspect capitalistique à ne pas négliger.
Julia, Delphingen, effectivement, ils ne sont pas positionnés que sur l'électrique. Hein, et notamment, ils ont essayé ces dernières années de diversifier leur activité grâce à leur technologie et à leur gain plastique et textile qu'ils ont fait. C'est une société qui s'est beaucoup construite par croissance externe. Une entreprise familiale, je crois que Gérald Sret, le président, est la troisième ou quatrième génération de la famille. Et une société, effectivement, qui là souhaite se concentrer sur la génération de cash après toutes les acquisitions qu'ils ont observées, vu qu'on est quand même dans un contexte du marché automobile compliqué. On a vu encore les chiffres des immatriculations en France, c'est pas forcément évident, mais c'est une société internationale, c'est une société effectivement avec à sa tête un groupe familial et un management de qualité, et une société qui fait attention à ses ratios financiers et qui cette année a dit se concentrer sur la génération de cash, le désendettement et donc stabiliser ses investissements et qui offre du rendement généralement chaque année.
Voilà, cher Victorien, notre regard sur Delphingen. Un mot d'Adèle qui nous demande votre regard sur Trigano. Ça, vous nous en avez parlé depuis le début de l'année de Trigano. Eric, en quelques mots.
Non, mais Trigano, j'aime bien. Vous savez, il y a des nouvelles façons. Vous savez, on parlait des seniors, mais maintenant, les retraités en France meurent 26 ans après leur départ à la retraite. C'était 12 ans il y a 20 ans et c'était 4 ans il y a 40 ans. Donc il y a des nouvelles façons de consommer. Et moi, donc, il y a deux dossiers sur lesquels je suis assez positif dans le secteur. Il y a Trigano, les mobile homes et tout ce qui concerne ce genre de produits. Mais il y a aussi Fontaine Pajot, qui est un dossier qui me paraît complètement décoté. Je crois qu'en VE sur EBITDA, ça vaut deux fois. Et c'est vraiment un dossier intéressant parce qu'il y a de plus en plus de retraités qui n'ont plus de résidence secondaire, qui vont soit dans les mobile homes Trigano, soit sur les bateaux Fontaine Pajot. Donc ces deux dossiers, j'ai rajouté la question sur Pajot qui n'était pas posée.
Non, merci.
Ces deux dossiers sont vraiment des dossiers très intéressants dans le secteur.
Un mot de Sword aussi, Adèle nous demandait votre analyse là-dessus.
Sword, société du service informatique très intéressante qui elle a son activité 100% à l'étranger, aucune activité en France puisqu'ils avaient cédé leur dernière filiale service qui était en France il y a ces dernières années et qui a annoncé ce matin, qui a fait de l'actualité puisqu'ils ont annoncé deux croissances externes ce matin en Écosse. Deux petites sociétés, une dans la cybersécurité et une deuxième acquisition dans l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Société très rentable qui surperforme très largement en termes de rentabilité, en termes de croissance organique, toutes les sociétés de son secteur. La performance ces 10 dernières années est assez impressionnante et une société de rendement et qui est très agile. agile en termes de M&A, puisque le dirigeant n'hésite pas à vendre les activités lorsqu'elle en a un bon prix et en acheter de nouvelles.
Et puis juste sur Swords, ce qui est intéressant, le PDG, moi je l'avais rencontré à Lyon, il a plus de 70 ans et c'est l'inverse de ce qu'on disait, parce que lui veut absolument rester à la barre. Il m'avait dit, pourtant il est très riche, je ne sortirai jamais de ma société. Donc vous voyez, il y a quand même des présidents qui, même s'ils sont âgés, veulent rester à la tête de leur entreprise.
Voilà, Jean-François Dancy, qu'on salue, qui est un auditeur fidèle, nous demandait des nouvelles de Valbiotis. On l'a fait. On a fait autant qu'on pouvait dans le temps qui nous était imparti. Un zoom, voilà, sur ces petites et moyennes valeurs. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Merci Julia Bridger, associée Euroland Corporate. Et merci Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, qu'on retrouvera demain dans notre journal des mid-cap. C'est pas parce qu'on en a parlé aujourd'hui qu'on peut pas en reparler
finalement,
demain.
On parlera de la semaine.
Le journal. Et puis on verra comment voilà, cette journée post-élection a été digérée par la cote petite et moyenne avec vous demain. D'ici demain, il y a avec vous, avec Sandra Gandon qui vient prendre les manettes. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Quel est le programme de l'émission du jour ?
Toutes les questions que vous allez nous poser sur la vie en entreprise, par exemple, évidemment, quel est l'impact de ces élections sur le monde de l'entreprise, les organisations, mais aussi d'autres questions. Mon employeur peut-il m'interdire de passer à la télé ? Ça arrive, il y a de très bonnes émissions.
Ça nous arrive sur certains
écrans. Oui, c'est vrai. Je voudrais créer un lieu pour accueillir du public, un restaurant, voilà, ce genre de choses. Quels sont les pièges à éviter ? Voilà, on répondra à ce genre de questions. Patron, salarié, indépendant, on est là pour vous. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr.
Amaury de Tonkadec prendra les manettes à 15h pour BFM Crypto, le club. De quoi allez-vous parler aujourd'hui, cher Amaury ?
Bon, très rapidement, un mot des législatives, parce qu'on avait des candidats pro-Bitcoin. Voilà, on fera un peu le point sur ce qui s'est passé. On parlera de paiement en Bitcoin, parce qu'à côté de Bordeaux, maintenant, on pourra bientôt payer en Bitcoin. Et puis, c'est l'entrée aujourd'hui même de MiCA, Marketing Crypto Asset, le règlement européen qui régule les stablecoins, et ça va changer beaucoup de choses pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire.
Vous pouvez joindre Amaury, vous pouvez évidemment suivre en direct à 15h BFM Crypto le club. C'est aussi à retrouver à 21h30 juste après Tech & Co. Puis vous le savez, comme l'ensemble de nos programmes et de nos séquences à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay. Tout pour investir, c'est fini, on sera là demain. On va s'intéresser aux placements, les placements réels qui rapportent même dans ces périodes troubles. Et puis on touchera aussi un mot de marché de l'art. Quelles sont les tendances, le marché à 6 mois de l'art? Et oui, on n'est pas obligé de parler que de politique. On parlera aussi d'investissement dans l'art demain, dans Tout pour investir. Rendez-vous demain, merci à toute l'équipe.
Tout pour investir sur BFM Business.